Très souvent, toi, tu vois un fichier dans ton service de gestion de fichiers sur le cloud. En fait, ce fichier, il est peut-être dans un, deux, peut-être trois endroits différents dans le monde. Pas besoin de le savoir, c'est ça la magie. En fait, la quantité d'informations qu'on génère au jour le jour, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des entreprises, elle explose depuis plusieurs années, elle va continuer à exploser. Si tu le sais pas, ça a l'air totalement anodin. En fait, tu peux faire pas mal de dégâts avec des choses assez simples. Donc c'est souvent la partie la moins contrôlable, c'est la partie humaine.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts ? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Après un passage à Polytechnique, Télécom Paris et Harvard, il est rapidement repéré par Orange qu'il rejoint dès l'année 2000. Il devient ensuite consultant senior chez McKinsey avant d'intégrer Google pour travailler sur la stratégie en direction des pays émergents. Il rejoint par la suite OVH Cloud en tant que directeur des opérations. Salut Frédéric.
Bonjour.
On est hyper content de t'accueillir sur notre micro. T'as quand même un CV de ouf. T'as un CV, ça me donne envie d'avoir le même. Bon, c'est pas ma personnalité, je pense, mais quoique peut-être que je vais m'y rapprocher avec le temps. Aujourd'hui, on va parler de cloud. Ta dernière expérience, ouais. D'ailleurs, je crois que t'as quitté OVH là il y a peu pour te diriger vers d'autres expériences. Donc, quand cet épisode sera diffusé, tu seras dans un autre univers. Donc, nos auditeurs pourront aller checker ton LinkedIn pour savoir ce que tu fais maintenant. Mais les perspectives sont belles. Pour entrer directement dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le cloud computing et l'importance de ce sujet-ci ? Pourquoi c'est un sujet qui est essentiel aujourd'hui ?
Oui, alors en fait, le cloud computing, ça se facilite, tu prends les deux mots. Cloud, c'est nuage, et en fait, c'est le terme qu'on utilise pour Internet. Et computing, c'est informatique au sens large. Donc, le cloud computing, c'est de l'informatique sur Internet ou via Internet. Donc, ça consiste simplement à utiliser des ressources informatiques, des ordinateurs à distance via Internet. C'est la définition la plus large. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, c'est une façon d'utiliser l'informatique qui a explosé depuis une vingtaine d'années et qui est vraiment essentielle pour le développement de l'informatique et pour notamment pour les entreprises, mais aussi pour les individus. Alors en fait, pour comprendre la différence, il faut dire s'il y a 20 ou 30 ans, quand tu avais une entreprise, une petite boîte, en fait, tu avais quelques serveurs, des ressources informatiques. Très souvent, tu devais les acheter, les entretenir toi-même. C'était dans tes locaux. Et donc c'était une approche qui était un peu plus lourde, un peu plus complexe. Aujourd'hui, grâce au cloud computing, mais en fait les entreprises n'ont plus besoin d'acheter leurs ressources informatiques, elles peuvent simplement les louer, les utiliser, payer à l'usage auprès d'un fournisseur de services cloud, et ce qui leur apporte énormément de flexibilité et d'agilité en même temps. Donc voilà, le cloud computing, c'est essentiellement ça. Alors, on en parle aussi pour les individus, parce que tu peux aussi le transposer, c'est de la même façon que les entreprises aujourd'hui, la plupart du temps, leurs ressources, elles sont plus locales et elles sont plus en direct. De la même façon, on utilise de moins en moins des logiciels sur nos ordinateurs individuels, et de plus en plus des logiciels qui sont dans le cloud, donc qui tournent en fait sur des serveurs qui sont de l'autre côté, auxquels on accède via Internet.
On est devenu addict à ça ou pas ? On serait vivre sans cloud aujourd'hui ?
Alors, ce serait très difficile en fait. Il y a pas mal de choses que le cloud permet de faire, notamment avec un coût, une agilité, une flexibilité qui serait très difficile de réaliser si on le faisait pas. Le premier élément, c'est dans le modèle d'avant, on avait des entreprises qui avaient leur propre système informatique qu'il fallait gérer en direct, donc c'était beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe. Et puis aussi aujourd'hui, on a de plus en plus d'intégration entre les entreprises. On a de plus en plus de services qui sont composites, qui utilisent des fonctions qui sont chez des frontières différentes. Donc, si on n'avait pas la possibilité de les connecter via Internet et de les composer, il y a plein de choses qu'on pourrait pas faire de nos jours. Et puis, alors, à titre individuel aussi, si demain tu fais l'expérience, moi je l'ai fait quelques fois, tu prends pas ton smartphone, ou sinon ça m'est arrivé par exemple de partir dans des pays où l'internet était très très cher, l'internet mobile, donc devoir me passer de mon téléphone mobile ou de fonctionner uniquement en mode local sur mon téléphone pendant 2-3 jours, c'est faisable, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
Ouais, moi je suis pas sûr que je serais capable, hein. Tu vois, je suis dans tout l'écosystème Apple, du coup j'ai tout sur iCloud pour travailler, j'utilise Notion, donc si tu veux je suis encore plus dans le cloud. Et ouais, que même ma musique, je l'ai pas en local, je l'ai sur Spotify, donc dans le cloud. Même si je pourrais la télécharger, mais ouais, je pense que ça serait une aventure très compliquée. Et justement, aujourd'hui, quand je télécharge une pièce jointe ou quand j'écris sur Notion, qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment ça se met sur le cloud? Ma maman, si elle nous écoute, elle dit que c'est magique, que ça apparaît comme par magie sur d'autres appareils et que c'est stocké dans les nuages.
Ouais.
Comment, qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment tu l'expliquerais à un enfant de 2 ans ce qui se passe?
Alors, voilà. Ce qui est magique, c'est justement que ça a l'air aussi simple, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, mais pouf, c'est magique, on s'en rend pas compte. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est assez simple. Alors, si je prends le cas du fichier, imaginons que tu veux sauver un fichier sur un service en ligne. En fait, tu vas te connecter à un serveur et puis en fait, tu vas envoyer ton fichier depuis ton ordinateur. Hop, il va être envoyé sur le serveur. Puis le serveur, il va prendre ton fichier puis il va le stocker quelque part. Alors, ce quelque part, c'est là que c'est intéressant, la magie du cloud. En fait, tout le monde a l'impression que c'est un nuage, que ça se passe tout là-haut, que c'est très léger. Dans la réalité, non, c'est juste d'autres ordinateurs. Simplement, il y en a beaucoup dans des gros centres de données, donc c'est très, très industriel et c'est très, très lourd. Mais simplement, la magie, c'est que on cache ça à l'utilisateur. C'est qu'en fait, pour toi, tu vois juste une belle page dans ton navigateur où tu vois un fichier, tu le mets, où tu tapes des choses dans Notion. Puis voilà, c'est magique. Tu vois, sur ton téléphone, il y a la même chose. En fait, pour que ça se passe, ton téléphone et ton ordinateur, en fait, ils ont rien en local. Ils font juste une connexion avec un serveur qui est à distance, qui lui a tes informations et qui te les met sur ton téléphone ou sur ton ordinateur pour que tu puisses travailler. Mais le cœur de ce que tu as, il est dans ces centres de données. Alors là où je trouve ça magique, c'est qu'en fait, ça a l'air très simple. Et comme je dis, c'est hyper compliqué parce que pour faire ça, il faut pouvoir t'identifier, il faut pouvoir sécuriser. Très souvent, toi, tu vois un fichier dans ton service de gestion de fichiers sur le cloud. En fait, ce fichier, il est peut-être dans 1, 2, peut-être 3 endroits différents dans le monde. Et t'as pas besoin de le savoir. C'est ça la magie, en fait. T'as une espèce d'abstraction où, en fait, on rend les choses hyper simples, hyper fluides. Donc, c'est l'aspect très nuage. Mais dans les faits, c'est assez complexe. Et puis, il y a beaucoup d'industriels derrière, en fait.
Avant de plonger vraiment dans la technique qui est un petit peu derrière et justement de creuser un peu tous ces termes que tu mentionnais, aujourd'hui quand on pense cloud, comme on le disait, on pense souvent à notre musique, notre Dropbox, mais concrètement c'est quoi toutes les applications du cloud? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut stocker n'importe quoi, n'importe quelle taille de fichier?
Alors, en fait, déjà, c'est même sur le cloud qu'on peut stocker plus de choses qu'en local. Et c'est ça. Enfin, on peut tout faire dans le cloud avec un effet d'échelle encore plus important. C'est-à-dire qu'on peut stocker beaucoup plus de choses. On peut y mettre autant d'informations. Tout ce qu'on pouvait faire avant sur un ordinateur chez soi ou pour une entreprise, un ordinateur qu'on avait en local, on peut le faire sur le cloud et on peut le faire en mieux à plus grande échelle. Et c'est aussi pour ça que le cloud a vraiment explosé, c'est que il y a des choses qu'on pouvait de moins en moins faire. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, ou de big data. En fait, la quantité d'informations qu'on génère au jour le jour, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des entreprises, elle est énorme. Et elle explose depuis plusieurs années, elle va continuer à exploser. Et cette quantité d'informations, elle crée une valeur potentielle assez importante, parce qu'on peut en faire des choses de toutes ces données. Mais pour ça, ça demande beaucoup de place et beaucoup de capacité de calcul. Et ça, c'est des choses qu'on peut de moins en moins avoir en local. Ça coûte beaucoup plus cher de les avoir pour soi. Et c'est là que le cloud est super intéressant. C'est-à-dire, c'est une des choses qui a fait exploser le cloud, c'est que on peut facilement y stocker une quantité incroyable de données sous une forme qui est très variable. Il y a plein de services différents. On peut stocker ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Et là, il y a la limite en termes de taille est aussi assez abstraite. En fait, on y met ce qu'on souhaite. Et c'est plutôt ça l'avantage. Il y a un élément qui faisait qu'à un moment on pouvait pas tout stocker dans le cloud. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. C'est la partie sécurité. C'est qu'effectivement, il y a des choses. Et ce qu'au tout début du cloud computing, c'était un des freins pour certaines entreprises. Est-ce qu'on peut stocker tout ce qu'on veut sur le cloud? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont évolué. Non seulement on peut toujours stocker, crypter, donc sous un format qui fait que le fournisseur n'aura pas accès aux données. Les procédures de sécurité chez un fournisseur de cloud, elles sont au moins aussi bonnes que la plupart des entreprises, sinon meilleures. Je pense que la vraie vigilance qu'il faut avoir, c'est quel fournisseur on choisit, comme toujours. Mais avec la plupart des fournisseurs aujourd'hui, on n'a pas vraiment de limite, en fait. La vraie question, elle est plus Est-ce que qu'est-ce qu'on a à stocker, qu'est-ce qui est le plus adapté, mais il n'y a pas d'objection au préalable sur le type ou la quantité de données que tu veux mettre.
On reviendra sur les sujets de sécurité juste après, mais aujourd'hui tu nous as dit qu'on pouvait stocker tout et n'importe quoi dans des data centers qui sont présents à travers le monde et qui permettent justement de gérer toute cette data. Ces data centers, faut bien les alimenter en énergie. Et on sait qu'ils chauffent énormément, qu'il faut les refroidir et que ça, c'est une consommation d'énergie encore plus importante. Est-ce que, environnementalement parlant, le cloud, ça a un impact énorme ou pas?
Alors, c'est une question qui dépend du tour du scope que tu prends. Parce qu'en fait, déjà, il y a un truc, il faut comparer à périmètre identique. Ce que tu fais sur le cloud, il faut le comparer à qu'est-ce que ça consomme, qu'est-ce que ça génère comme dioxyde de carbone, qu'est-ce que ça consomme comme énergie par rapport à si tu faisais pas dans le cloud. Donc ça, c'est un premier élément. En gros, c'est si demain, tu coupes toutes les machines d'un des GAFAM, effectivement, tu vas réduire une empreinte énergétique, mais c'est des choses qui doivent être faites par ailleurs. Donc ça, c'est un premier élément. Alors effectivement, ça veut dire que comme de plus en plus de nos besoins informatiques sont fournis par le cloud, ben c'est là qu'on va voir l'empreinte environnementale. Alors après, il y a plusieurs façons de le faire. Et alors moi, la chance que j'avais d'être 6 ans chez OVH, c'est que j'étais dans une des fournisseurs de cloud qui est le plus en avance là-dessus. Alors, c'est qu'en fait, on peut faire pas mal de choses pour améliorer cette empreinte. D'abord, c'est où est-ce que tu sources ton énergie? Ça, c'est un des éléments où de plus en plus de fournisseurs ils font un effort. C'est en fait l'électricité que tu prends. Si tu peux, autant que possible, prendre de l'énergie qui soit renouvelable, qui soit hydroélectrique, qui a une empreinte carbone faible.
Ça, c'est une première chose. Le nucléaire, tu le mets là-dedans?
Alors, tu peux le mettre là-dedans aussi, parce qu'en termes d'empreinte carbone, là aussi, c'est-à-dire que choisir entre du charbon et du nucléaire, si l'avantage du nucléaire, c'est que l'empreinte carbone qui est beaucoup plus faible. Après, je sais que suivant les pays, par exemple, moi, j'habite au Québec, c'est pas du tout la même vision du nucléaire que celle que tu aurais en France, par exemple.
Mais c'est pas les mêmes ressources qu'ils ont sur place non plus.
Non, c'est pas les mêmes ressources. Donc effectivement, tu peux le faire, mais voilà. Donc la première chose que tu fais, c'est que tu peux optimiser le bilan carbone de l'énergie que tu utilises. Après, tu peux optimiser ton utilisation de cette énergie. Et là aussi, c'est le point principal, c'est s'assurer que tes machines elles sont utilisées à bon escient. Mais là, l'intérêt du cloud, c'est que justement parce que tu mutualises les besoins de plein de clients, tu peux avoir des effets d'échelle. Donc tu peux optimiser l'utilisation de tes serveurs. Et puis, l'aspect important qui peut ou pas générer de la consommation énergétique, c'est le refroidissement. Et pour ça, pour le coup, quand moi j'étais chez OVH Cloud, c'est un des éléments sur lesquels on mettait beaucoup l'accent, c'est que tu peux soit faire du air cooling, soit du water cooling. Alors, air cooling, c'est que tes machines, elles font de l'énergie. La plupart des desktops qu'on a chez nous, c'est pareil. En fait, tu as des ventilateurs et tu as des clims. Et donc, tu extrais la chaleur avec des climatiseurs. Ça coûte beaucoup d'énergie. Il y a une autre option qu'on appelle le water cooling, là on refroidit avec de l'eau. Alors ça fait un peu bizarre de dire on va faire passer de l'eau à l'intérieur d'un ordinateur, mais c'est ce que faisait OVH par exemple. Et là l'intérêt de ce système, c'est que
ce que fait encore OVH.
Ah oui, ils font toujours. C'est juste que je parle à l'imparfait, mais ils le font toujours. Et d'ailleurs c'est un des domaines où ils sont très en pointe. Et le principe, c'est là en fait tu vas amener de l'eau dans ton serveur pour extraire la chaleur avec l'eau. Et alors, l'intérêt, c'est que tu peux faire ça vraiment de façon beaucoup plus économe en termes d'énergie. Et ça donne une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible aussi.
Et l'eau, après, tu peux la réutiliser ou pas pour faire autre
oui,
chose?
Oui, en fait, tu la réutilises, tu la filtres. On a une consommation en eau qui est assez faible, en fait, parce que c'est un circuit fermé. Alors, effectivement, tu as de l'évaporation, donc il faut récupérer un peu. Mais dans l'ensemble, c'est la consommation en eau d'un système à base de water cooling, elle est plus faible que celle d'un système à base d'air cooling. Pour d'autres raisons. Donc c'est assez vertueux comme approche. Mais ça demande un peu de compétences.
Tu n'utilises pas l'eau pour une autre industrie, par exemple, qui se mettrait à proximité, qui récupérerait l'eau chaude pour, je ne sais pas, produire de l'énergie ou parce qu'elle a besoin d'eau chaude. Et après, ça remet de l'eau dans le cycle qui est plus fraîche.
Alors, je crois que c'est des hypothèses on l'a jamais utilisé, nous, de mémoire. Je sais qu'il y a des entreprises qui le font. Alors après, il y a des choses marrantes. C'est une boîte, je crois, récemment, qui disait qu'ils allaient faire du bitcoin, mais pour compenser l'empreinte carbone de leur ferme. Et en fait, ils s'en servent pour chauffer à côté. Donc, ouais, tu peux, techniquement. Il y avait même des entreprises qui proposaient de déployer chez des particuliers des serveurs qui servaient de chauffage électrique en même temps que d'unité de compute. Donc, il y a souvent cette complémentarité-là. Dans la pratique, c'est pas quelque chose qui fait partie du modèle. Ça peut être une opportunité, mais Typiquement, chez OVH, ça faisait pas partie du modèle, en fait.
Et sur ces questions environnementales, est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi un gros enjeu sur l'éducation des utilisateurs type Nudge? Parce que tu vois, par exemple, on se rend compte que tout le monde utilise énormément le cloud au quotidien, parfois de manière un peu, on va dire, irresponsable, où on peut laisser des années des documents dont on ne sert plus, ne pas trier tout ça. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus.
Je pense qu'il y a un travail important, mais qui est aussi bien pour les individus que pour les entreprises, c'est d'avoir une idée de la consommation, notamment de l'empreinte carbone.
Il
y a un gros travail de fond là en ce moment, au niveau entreprise par exemple, c'est d'être capable, et c'est un des éléments sur lesquels on travaillait chez OVH il y a encore peu de temps, c'est comment tu fournis aux clients, bah, non seulement voilà ta facture, combien ça te coûte en euros ou en dollars d'utiliser les services cloud, mais aussi c'est quoi ton empreinte carbone, c'est quelle quantité de carbone t'es généré par ton usage. Et ça, c'est un besoin qui est, nous, on pense, assez essentiel, parce que ça te permet à la fois d'éduquer les utilisateurs. De plus en plus d'industries évoluent vers un modèle où, en fait, il faut que eux ils puissent donner leur impact carbone. Donc, il faut qu'ils puissent demander à leurs fournisseurs de services à quel carbone ils ont généré via leur usage de l'IT. Donc, au niveau entreprise, je dirais que je vois bien des éléments qui vont vers ça. Je pense qu'au niveau particulier, c'est le cas aussi. Alors après, faut toujours relativiser. Effectivement, ça dépend comment c'est fait, mais si jamais tu as des fichiers qui sont depuis longtemps sur un serveur et que tu n'utilises pas beaucoup, et que ton système d'archivage, c'est un archivage long terme, ça va pas consommer beaucoup. On a même des cas où, en fait, on utilise à nouveau des bandes magnétiques, parce qu'on s'est rendu compte que c'était assez rentable. Typiquement, ça consomme très peu. Donc, je pense que l'usage du cloud au niveau particulier, je pense que c'est important aussi d'éduquer. Mais pour l'instant, là où j'ai vu où c'est peut-être le plus efficace, c'est pour niveau entreprise, ou c'est peut-être parce que c'est là-dedans que je travaillais le plus, où là, tu peux de plus en plus donner cette information, et les secteurs qui sont réglementés commencent à avoir besoin de cette information-là. C'est combien me coûte mon IT, mais aussi combien mon IT coûte à la planète en termes de carbone.
Et est-ce qu'on sait vraiment mesurer cet impact? En tout cas, comment vous basiez-vous sur ce type de calcul?
On sait bien le faire, et en fait, là aussi, il y a différentes approches. Alors, il y a une modèle qui est le plus simple, c'est que tu regardes la consommation électrique, et puis tu regardes le type d'énergie que tu as, et voilà, ça te donne ton empreinte carbone en termes de consommation. Mais en fait, c'est généralement, il y a différents scopes. Alors, je suis pas le spécialiste là-dessus, j'ai d'autres amis qui sont bien plus calés que moi là-dessus. Mais en gros, tu peux regarder, ça c'est une version minimaliste, et c'est là-dessus que la plupart communiquent. Mais après, il y a aussi l'empreinte carbone de tes serveurs. Parce qu'en fait, pour fabriquer ton serveur, il a fallu générer une empreinte environnementale. Donc, être capable aussi de dire, voilà, tu utilises ce serveur pendant 10 minutes, ben voilà ce que ça génère en termes de carbone à cause de la consommation énergétique. Voilà la quote-part du carbone qui a été généré pour fabriquer ton serveur que tu aussi, pour lequel tu es responsable. Et on peut même aller au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme packaging. Et ça, c'est vraiment un élément chez OVH qu'on poussait autant que possible, c'est d'avoir un scope qui soit le plus général possible.
Qu'est-ce que tu entends par packaging?
Ça va jusque là, c'est-à-dire que tes serveurs, tu les récupères, ou tout ce que tu récupères de ton matériel ou tes pièces, ben en fait, comment c'est transporté, par quels moyens, quelle empreinte carbone du transport, quelle empreinte carbone du packaging logistique, sur quelle empreinte carbone tu as aussi de toutes les choses que tu vas jeter ou pas, enfin pour pouvoir faire ton data center. Donc, nous vraiment ce que fait OVH, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est de se forcer à avoir une vision qui soit holistique. C'est-à-dire, c'est pas juste combien de l'énergie. L'énergie, c'est un élément en termes de génération de carbone, mais il y a tout le reste aussi. Parce qu'un data center, il faut le construire, les serveurs, faut les construire, donc il y a une empreinte qui est, si on veut être réaliste, il faut être assez large. Et on a les moyens de le faire aujourd'hui. Là où c'est difficile, c'est que tous les fournisseurs s'entendent pas sur à quel point ils veulent être holistiques. Il y en a qui veulent communiquer uniquement sur un petit bout, d'autres qui sont OK pour communiquer sur l'ensemble. Enfin, je sais que c'est un des éléments où on poussait pas mal, c'est autant que possible donner une vision qui soit la plus vaste pour dire, voilà l'ensemble du carbone, mais il y a aussi des aspects sur l'utilisation de l'eau, voilà, pour que l'utilisateur ou l'entreprise qui est client puisse savoir que ce soit pas une boîte noire, en fait, que puisse savoir que si on utilise tel service de tel fournisseur pendant 3 semaines, voilà ce que ça génère réellement comme empreinte environnementale.
Ok. Et la consommation du particulier, elle a vraiment un impact, ou alors elle est assez résiduelle?
C'est complexe, qu'en fait, où est-ce que tu arrêtes la consommation du particulier? Tu pourrais dire, voilà, je regarde mon smartphone.
Pas professionnel.
Voilà, mais en fait, ton particulier, il utilise derrière des services. Ces services, ils tournent, donc ils vont être... c'est toujours complexe quand on dit entreprise au particulier, parce que quelque part, les entreprises, c'est pour toi qu'elles travaillent, in fine, pour te vendre des produits, donc ou te vendre des services. Donc, c'est difficile de détourer, de dire, voilà, moi, en tant que particulier, j'utilise uniquement ça. Donc, suivant quel scope tu le places, finalement, je connais peu d'entreprises dont le produit final n'arrive pas chez une personne. Donc quelque part, quand toi, je sais pas, quand tu prends ta voiture, tu utilises ta route, tu consommes un peu de la route qui est dehors, qui elle-même a été construite par une entreprise de BTP qui a pas travaillé directement pour toi, mais en fait c'est pour toi au final. Donc je trouve toujours c'est une dialectique qui est un peu trompeuse, parce qu'on pourrait avoir l'impression que les particuliers n'utilisent que les services, la couche finale des services, alors qu'en fait derrière, en cascade, il y a tout un tas d'autres entreprises qui sont impliquées.
Juste avant d'aller sur les composants du cloud essentiel et pour rester justement sur ces éléments de langage que tu challenges, j'ai vu passer la semaine dernière, j'arrive plus à retrouver la stat quelque part, mais qui disait que en 10 ans, la consommation énergétique des data centers était relativement stable. C'est le cas ou pas, malgré la consommation qui était de plus en plus élevée?
Alors, j'ai pas les derniers chiffres, donc je pourrais pas te dire si c'est le cas ou pas, mais
la tendance,
ça me choquerait pas. Alors après, l'important, je trouve, en soi, tu peux avoir une seule métrique, parce qu'en fait, c'est pour servir combien de clients. Si par exemple, il y a de plus en plus de gens qui utilisent Internet, ta consommation globale, elle va peut-être augmenter, mais c'est normal, en fait. Donc vraiment, c'est une question d'efficacité. C'est au regard du nombre de personnes qui utilisent le cloud ou nombre d'entreprises qui utilisent le cloud, est-ce que on améliore l'efficacité. Il se peut qu'au global, ça croisse, mais qu'on améliore l'efficacité. Stable, oui, ça me paraît un peu ambitieux. Je pense qu'elle n'est pas du tout bougée. Je serais intéressé pour voir l'article, pour voir quelles sont leurs méthodes de calcul. Qu'on soit aujourd'hui plus efficace qu'on l'a été, oui, clairement. En tout cas, si je me base sur l'exemple d'OVH, il y a beaucoup, beaucoup de travail, de licences, de brevets qui a été déposé pour justement améliorer l'efficacité. L'autre aspect aussi, c'est qu'on est de plus en plus efficace pour une capacité de calcul donnée. Ça, c'est aussi l'évolution des choses. Après, voilà. Donc, je serais toujours intéressé dans ce cas-là de voir quelle est l'approche qu'ils prennent.
C'est bon, j'ai retrouvé la phrase que je voulais te citer. Donc, c'est les stats ne sont pas hyper claires, mais il semblerait que la consommation énergétique des data centers soit relativement plate depuis 10 ans, malgré une utilisation qui a été multipliée par 6. Et en fait, justement, cette phrase, je suis pas arrivé à trouver les stats qu'il y avait derrière et l'étude qu'il y avait derrière. Du coup, j'en ai pas parlé dans la newsletter qu'on sort chaque semaine. Chaque dimanche, on sort une newsletter qui décortique les sujets tech et économiques à travers le monde. Et j'en ai pas parlé parce que j'avais pas l'info, mais du coup, j'en profite. Ça te semble logique, ça?
C'est réducteur. Déjà, alors, quand un article dit les stats ne sont pas clairs, quand l'article lui-même commence à dire que les stats sont pas clairs, c'est, à mon avis, je pense que les chiffres sont à creuser. Je pense là-dessus, il y a une personne peut-être vers laquelle je pourrais vous renvoyer, qui est vraiment un spécialiste du domaine, qui est un ancien collègue d'OVH, qui s'appelle François Sterrin, qui lui est vraiment un passionné de ce sujet, qui bossait aussi là-dessus chez Google, parce qu'en fait, c'est le diable est dans les détails sur ces éléments-là. C'est quoi ton scope, c'est quoi tes mesures, et la vraie question c'est quelle est l'information tu veux en tirer, en fait. Est-ce que tu veux savoir si c'est plus efficace, est-ce que tu veux savoir si on aura la capacité à 10 ans, quelle que soit la demande, en fait, de répondre aux besoins énergétiques. Il y a des différentes métriques en fonction de ce que la question à laquelle tu veux répondre.
Ouais. Effectivement, c'est important de bien voir le pourquoi est fait l'étude, parce qu'on peut tout faire dire aux chiffres.
Ouais.
Paul, je crois que tu avais une question sur la composition des data centers.
Ouais, tout à l'heure, tu mentionnais, Frédéric, en tout cas, le fait qu'il y ait plusieurs acteurs derrière tout ça. Pour comprendre un peu comment ça se passe, quels sont les composants essentiels aujourd'hui entre mon ordinateur quand j'upload un fichier sur le cloud et le data center? Comment ça se passe vraiment techniquement?
Bah, en fait, chez toi, ton ordinateur, on en utilise très peu quand tu utilises du cloud. On a souvent des plus grosses machines pour faire plein de choses, mais en fait, tout ce que tu as besoin de faire tourner, c'est un navigateur web la plupart du temps. Donc, c'est-à-dire que tu peux utiliser le cloud avec ton ordinateur chez toi, tu peux utiliser Cloud avec un Raspberry Pi à 20 euros, tu pourras utiliser du Cloud, en fait. N'importe quel truc qui te permette de connecter parce qu'en fait, l'essentiel se passe pas chez toi, elle se passe sur Internet. Donc toi, tout ce que tu as, c'est ton navigateur. Bah, là, par exemple, on est en train de se parler à travers un service où, en fait, y a un bout qui tourne en local dans le navigateur, mais l'essentiel se passe pas ici. Donc après, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Bah, en fait, donc il y a Internet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu te connectes via ton fournisseur d'accès. De plus en plus, tu auras de la fibre optique pour amener connecter ton ordinateur avec un data center. Alors, c'est quoi un data center? Bah, imagine un gros hangar assez énorme dans lequel il y a des racks, donc des étagères avec des serveurs. Les serveurs, c'est un ordinateur, mais en fait, en général, il est à plat. C'est assez simple pour pouvoir le gérer. Des ordinateurs où il n'y a pas d'écran, parce qu'en fait, c'est des serveurs. Que si tu veux te connecter, tu peux, mais tu n'as pas besoin d'un écran pour chacun. Donc, c'est juste l'essentiel d'ordinateur. Il n'y a pas non plus de souris et de clavier. En fait, c'est des ordinateurs auxquels tu te connectes à distance. Et donc, tu as des rangées, on t'imagine des centaines, des milliers de serveurs dans des grands hangars. Alors ces serveurs, c'est des ordinateurs comme d'autres. Donc il y a à la fois de la puissance de calcul. Donc là c'est ce qu'on appelle le CPU, le GPU. Donc le CPU c'est le processeur de l'ordinateur, le GPU c'est le processeur graphique. Mais dans le cas des serveurs, il sert surtout à faire du calcul. Et puis t'as aussi des disques durs dans ces serveurs ou dans des environnements dédiés pour le stockage. Et puis donc ça c'est dans ton data center, t'as un hangar avec plein de machines auxquels les gens peuvent se connecter à distance. Alors bien sûr, pour pouvoir se connecter, il faut aussi un accès réseau. Donc il y a aussi tout un tas d'équipements, des routeurs, des switches, enfin voilà, je peux entrer dans le détail, qui permettent que ces serveurs dans le data center puissent être connectés au monde extérieur et qu'on puisse interagir avec ces serveurs. Ça, c'est essentiellement les briques qu'on a. Alors pour pouvoir, ça c'est la partie informatique. Bien sûr, pour pouvoir faire fonctionner tout ça, il faut des connexions électriques. Donc, en général, tu as des gros connexions, en général, plusieurs par data center, qui te relient à un ou plusieurs fournisseurs d'accès aux fournisseurs d'électricité. Et puis, tu as des batteries aussi, parce que si jamais tu perds le courant, faut pas que tes serveurs tombent en panne. Et puis, tu as aussi parfois des génératrices, là, qui sont des génératrices diesel, qui fonctionnent au cas où tu as vraiment une coupure de courant assez longue pour pouvoir maintenir tes services essentiels. Et puis, tu as tout un tas de systèmes de sécurité en plus, et puis des barrières, voilà. C'est à ça que ça ressemble à un data center, en fait. Et donc, toi, quand tu veux te connecter, simplement, ton ordinateur, il communique avec un ordinateur dans le data center qui va fonctionner pour tes besoins, le temps de répondre à ton service.
Et quand j'envoie ma donnée, donc elle est encodée, ouais, etc., pour passer sur un protocole Internet, est-ce qu'elle va être fractionnée entre plusieurs serveurs, plusieurs racks de mon data center, ou en fait, non, pas forcément, elle va toujours dans le même data center? Est-ce que...
Ça dépend du service.
D'accord.
Alors, ça dépend du service. Tu vois, c'est si tu fais tourner, voilà, tu fais une requête, ou tu fais, bon, ça peut rester sur un serveur. Dès lors qu'on parle de données, très souvent, ça va être réparti sur plusieurs serveurs, notamment si on veut assurer une certaine redondance, et notamment à partir du moment où tu utilises des services, donc ça s'appelle du SaaS, donc c'est un service qui t'est fourni par le web. En fait, le fournisseur, il a tout intérêt à assurer une redondance, que si jamais, imaginons que t'as tes mails chez un fournisseur d'accès et qu'il a un de ses serveurs qui crame, qui plante et qui tombe en rade, il faut que tu puisses continuer à avoir accès à ton service. Donc, ce qu'on va faire en général, c'est que dans ces cas-là, ta donnée, elle est pas sur un seul serveur, elle va être répartie sur plusieurs serveurs de façon redondante. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre plus d'informations comme ça. Si une des machines n'est plus accessible ou tombe en panne, tu as toujours accès. Et tu peux même aller au niveau d'après, à savoir, tu peux la répartir sur plusieurs sites géographiques. Comme ça, si tu as un data center qui est déconnecté, par exemple, d'Internet, à cause d'un problème réseau, ce qui peut potentiellement arriver, tu continues à pouvoir utiliser les services. Donc, en général, ce que toi, tu vois comme étant un seul fichier, ça va être découpé en plein de fragments sur plusieurs machines qui sont potentiellement pas du tout au même endroit. Mais ça dépend du service, ça dépend du niveau aussi de sécurité qu'il te faut. Parce que faire ça, ça coûte nécessairement un peu plus cher. Donc, c'est ça varie selon les usages.
Et donc, est-ce que justement on peut reconstituer de la donnée si par exemple il y a un des serveurs auquel il y a un problème? Est-ce que en tout cas les fragments restants permettent de reconstituer le fichier global?
Parce que je dis, on sait faire, c'est ce qu'on fait en fait même avant le cloud, depuis un certain temps. Tu l'as même sur des machines que tu as chez toi en fait. Je sais pas si tu as déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle le RAID. C'est un truc qui existe, que tu peux avoir dans un serveur de disque chez toi. Le principe, c'est que tu utilises plusieurs disques durs et tu en utilises un de plus, par exemple. Et ce qu'il fait, c'est que tu vas stocker, ben, tu as une information, tu vas la découper et stocker une information en plus qui est dépendante du reste. Si tu perds un disque, tu peux recomposer ce qui manquait. Parce qu'en fait, tu as plus d'informations que nécessaire. Donc, tu as ce qu'on appelle une redondance. Et ça, en général, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que tu peux, si tu perds un des disques, tu peux quand même reconstituer l'information manquante. C'est un des points importants de la raison. Et de toute façon, en général, en informatique, c'est ce qu'on essaie toujours de faire. Tu sais qu'à un moment, tu auras toujours un équipement qui va tomber en panne. Voilà, c'est des équipements qui... Le modèle économique, c'est de prendre des équipements normaux qui ont quand même des taux de panne assez faibles, mais qui sont pas exemptés de pouvoir de tomber en panne à un moment ou à un autre. Donc le tout, c'est de prévoir la résilience en prévoyant notamment de la redondance et de répartir les choses dans plusieurs services ou de faire du backup. Ça, c'est l'autre aspect aussi qu'on peut faire assez facilement.
Qu'est-ce que tu entends par backup ?
Alors backup, c'est t'as tes données par exemple et l'idée, c'est que tu puisses prendre une copie de tes données à un instant donné, enfin un instant précis, et puis en fait, cette copie de tes données, tu la mets dans un autre endroit. Comme ça, si jamais tes données, pour une raison ou pour une autre, elles sont abîmées ou elles sont tu n'y as plus accès, tu as toujours cette copie pareil. Donc c'est quelque chose que on encourage tout le monde à faire avec ton ordinateur chez toi, mais tu peux faire aussi. Lorsque tu as des ressources en ligne, si tu prends un serveur privé, par exemple, chez un fournisseur Internet, un fournisseur de services cloud, tu peux, en général, il te propose de faire des backups réguliers, comme ça, si jamais tu perds ton serveur ou pour une raison ou pour une autre, tu peux le reconstituer.
On va revenir sur ce sujet-ci après avec la migration d'un cloud à un autre. Mais pour revenir un petit peu à ce que tu disais juste avant, si je pousse à l'extrême... ce que tu nous dis, ça me fait penser au cloud décentralisé, au fait de stocker sa donnée en fractionné dans plein d'ordinateurs et petites bases de données privées à travers le monde, à travers les membres du réseau du cloud décentralisé. Est-ce que ça, t'y crois, toi, et tu trouves qu'il y a un potentiel intéressant ou finalement, ça reste un truc, une innovation qui va mourir dans l'œuf ?
Moi, quand je pense cloud décentralisé, je pense surtout à edge computing. Et c'est des approches un peu différentes. L'idée, c'est plus au lieu d'avoir un fournisseur centralisé, d'avoir des gros data centres au centre, c'est d'avoir des plus petits data centres qui sont plutôt déportés. Alors là, les cas d'usage, ils sont moins de mon point de vue pour la partie données. C'est plus, ça te permet d'avoir de la capacité de calcul et de stockage au plus près de son utilisation. Alors c'est quelque chose qui est assez naissant, mais le type d'exemple que ça peut donner, c'est j'ai vu un use case comme ça où imagine que t'es de des flottes de camions pilotées par IA. Il faut que ces flottes de camions puissent échanger des informations et que des calculs puissent être faits au plus près pour réduire le temps de latence. Donc là, ça peut être intéressant que tu passes pas par un cloud centralisé, mais par des mini clouds plus locaux. Un autre exemple, c'est si t'as une question de vie privée. Imaginons que tu fasses du monitoring de patients dans un hôpital, à la fois pour des questions de latence, mais aussi pour des questions de protection de la donnée, tu peux pouvoir préférer d'avoir un modèle où tu ramènes pas toutes les informations centrales, mais elles sont gardées en local. Donc t'as un ensemble de use cases comme ça qui sont notamment apparus aussi avec ce qu'on appelle l'IoT, c'est l'Internet of Things. En fait, t'as de plus en plus d'équipements qui peuvent générer de la donnée localement. Par exemple, dans une usine, tu peux générer plein d'informations pour détecter une panne en avance. Pour ce genre de choses, tu pars des modèles où ce serait plus efficace que de ne pas passer par des serveurs dans un gros data center central, mais plutôt d'avoir des petits data centers en décentralisé. En fait.
Justement, petite parenthèse là-dessus, on a fait un épisode sur la 5G et on se rend compte que c'est quelque chose d'hyper important pour le futur de l'industrie et des entreprises qui utilisent l'IoT. Est-ce que toi, tu le vois comme une potentialité de croissance énorme pour les clouds ? Parce qu'en fait, la 5G va prendre de la data à un endroit, l'envoyer sur un cloud, souvent l'utiliser via un modèle de calcul, éventuellement un modèle de LLM, etc. Et après, la redescendre sous forme d'un ordre via un autre appareil, sur un autre appareil.
Alors, ce qui est là, c'est un gros potentiel de croissance au sens où qui dit IoT dit génération de données. Donc, tu auras des besoins en compute et en stockage importants. Là où c'est des modèles un peu différents, c'est que ouais, les modèles que tu décris, c'est des modèles où tu n'as pas besoin de stocker le nez pendant très longtemps. Où là, l'idée, c'est justement que là, le edge computing pourrait être intéressant, c'est que tu vas avoir un modèle un peu différent où au lieu d'avoir toutes les données centralisées, tu auras des plus petites entités qui te servent à récupérer ces données, à faire le compute et puis à renvoyer la réponse assez rapidement. Donc, ce sera une forme d'usage qui sera sans doute différente, mais au global, ça va contribuer à la croissance et c'est parce que ça va enrichir encore plus la quantité de données qui sera générée. Aujourd'hui, t'imagines les données que nous, on génère à chaque fois qu'on a une interaction sur Internet. Si tu fais ça, mais pour tous les objets du quotidien, ce qui est déjà beaucoup le cas, ça représente une quantité assez massive.
Ok. Tu l'as cité à plusieurs reprises, la durée de vie des data. Aujourd'hui, une donnée stockée dans un cloud, ça a une durée de vie de combien de temps ?
C'est très variable. Et alors, c'est pour ça que c'est important, quelque part, de le savoir, parce que tu ne vas pas la traiter de la même façon suivant sa durée de vie. T'as des choses qui ont une durée de vie assez courte. Tu as des logs, par exemple, ou des choses lorsque, donc c'est la trace de, voilà, j'ai fait telle opération, ou il s'est passé telle chose sur telle machine. Ça, c'est des choses que potentiellement tu vas pas garder, très, très longtemps parce que tu n'auras peut-être plus besoin au bout d'un certain temps. T'as des choses que tu ne peux pas garder pour des raisons réglementaires. Et puis, t'as des données que t'as besoin de garder pour très longtemps pour faire de l'archivage. Donc, c'est là que t'as, l'intérêt, c'est en fonction du type de données, tu vas pas stocker de la même façon. Si tu as de la donnée dont tu as besoin tout de suite de façon très rapide, tu vas la stocker sur des serveurs de stockage qui ont des bonnes performances, voire tu vas la stocker en RAM. Il y a des cas où, en fait, pour pouvoir faire tes calculs, tu ne mets même pas sur le disque dur parce qu'il sera trop lent. Et à l'inverse, tu as de la donnée que tu veux garder pour des raisons légales, par exemple, mais tu sais que tu auras peu de chances de t'en servir. Là, tu as plutôt intérêt à la mettre sur des systèmes qui sont fiables, mais qui sont pas très chers, mais qui permettent pas facilement d'accéder à la donnée aussi simplement, mais de toute façon, on n'a pas besoin. Et ça, c'est ce qu'on appelle plutôt un stockage à froid. Et là-dessus, il y a une anecdote, c'est qu'il y a un retour en force des bandes magnétiques. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu des films des années 70, où tu as des grandes bandes magnétiques, où on voit... on a à nouveau du tape, c'est à nouveau présent. Pourquoi ? Parce que ça permet justement de faire du stockage long, pas cher, en archivage.
Et tu crois au stockage dans l'ADN ou pas ? Tu sais, on peut encoder dans l'ADN de la data et générer un stockage sur une durée de vie hyper, hyper, hyper longue. Ça, tu y crois comme potentiel pour des données stratégiques ?
Écoute, je ne connais pas le sujet personnellement. Donc, je pense que c'est relativement lointain d'une mise en opération. Donc, tu m'en aurais parlé en dehors du podcast. Je sais pas si ça fait très science-fiction en apparence. Alors si tu réfléchis, oui, c'est un mode de stockage d'information qui est pour le coup hyper dense et hyper efficace avec des systèmes d'autocorrection. Donc conceptuellement, je peux voir comment ça peut fonctionner. Je suis pas sûr qu'on achète des équipements pour avoir des racks de stockage d'ADN chez EVH d'ici peu.
On va faire un épisode là-dessus sous peu, je te pourrais en parler. Ah, ça m'intéresse, franchement. Ouais. Et en fait, j'en ai discuté avec Luc Julia, et lui, il trouve qu'il y a un super gros potentiel, mais par contre, il faut à peu près une demi-seconde pour encoder l'information et pour la décoder. Du coup, pour le grand public, c'est trop long, ça pourra pas être déployé, sauf s'il y a des grosses évolutions sur cette techno. Mais par contre, pour des données, des secrets d'État, des données très stratégiques qui nécessitent une conservation dans le temps, ça peut être intéressant comme ressource. En tout cas, on va creuser ça avec Paul dans la...
Écoute, ça m'intéresse de regarder, parce que je serais curieux de voir notamment en termes de stabilité, parce que c'est un des gros éléments lorsque tu parles de la mémoire, c'est à quelle vitesse tu peux y accéder, puis aussi à quelle mesure elle est stable, ou est-ce que tu peux avoir un moment perdre, donc comment tu gères ça, est-ce que c'est des systèmes de correction d'erreurs ou non. C'est un sujet, ouais. Mais écoute, tu me diras quand le podcast est sorti, je l'écouterai avec plaisir.
Puis c'est sûrement pas les mêmes usages dans le sens où, on verra, hein. Je sais pas à quel point on peut stocker de la donnée en termes de volume, mais c'est vrai que je m'imagine pas des hangars avec, après peut-être, hein, dans un futur plus lointain, mais avec des racks d'ADN. Bon, on verra bien. par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, quand j'utilise donc le cloud pour stocker des fichiers, je peux savoir dans quel data center ils sont ou c'est pas possible?
Ça dépend des services et ça dépend des cas. Alors, si par exemple, après on parlera tout à l'heure, je pense peut-être des différents types entre IaaS et SaaS.
Ouais, mais, complètement.
Si tu utilises un service d'email en ligne, par exemple, là, en général, tu le sais pas parce qu'en fait, le fournisseur, il gère lui-même la redondance, donc il donne généralement pas cette information. En revanche, si tu utilises, si tu vas prendre, récupérer un serveur ou donc faire du IaaS ou du PaaS, très souvent là, tu sauras, en fait, où sont les ressources que tu utilises. Alors, tu sauras pas nécessairement dans quelle machine précisément, ça dépend, mais tu peux savoir dans quelle zone géographique ou sur quelle localisation. Alors, c'est un point qui est de plus en plus important, notamment pour des raisons réglementaires et légales, parce qu'en fait, où est ta donnée, ça va aussi définir à quelles lois vont s'appliquer dessus. Parfois même c'est pas suffisant, c'est où est ta donnée, quelle est la nationalité de ton fournisseur. Mais donc c'est important pour ça de savoir si tes données sont à tel ou tel endroit. Et notamment il y a certains services ou certains domaines où t'es obligé d'avoir de la donnée en Europe, tu peux pas la mettre en dehors de l'Europe en fonction du niveau de sécurité. Ou tu peux même dans certains cas je sais qu'il y a des cas d'usage où la donnée peut pas sortir d'un pays, par exemple. Donc là, c'est important dans ce cas-là de pouvoir fournir une preuve que non seulement, alors c'est deux éléments, c'est non seulement la donnée est stockée à tel endroit, mais les gens qui peuvent accéder à cette donnée pour des raisons de maintenance, ils sont dans tel pays et pas dans tel autre.
D'accord. C'est des questions aujourd'hui qui sont j'imagine, surveillées par les politiques sur cette question d'accès à la donnée, même pour les données grand public, en fait, non?
Oui, alors c'est clairement des questions, parce que c'est des questions de souveraineté.
Ouais.
Alors c'est pour ça, par exemple, là, en ce moment, il y a eu des discussions sur du partage d'informations entre les États-Unis et l'Europe. Ça fait partie des grosses questions. Ce qui est clair, c'est que c'est trouver un équilibre. C'est effectivement, il faut que tu puisses transmettre tes données. Alors pour créer de la valeur, il faut que la donnée soit partagée, puis souvent que les données soient croisées. Donc il faut que tu permettes ce flux de données. Le tout, c'est comment tu fais en sorte pour que tu puisses créer de la valeur tout en protégeant la vie privée et la souveraineté. Donc, l'important dans ce cas-là, c'est qu'il y ait les éléments qui te permettent qu'il y ait de la transparence et du contrôle. Et notamment, j'ai tel type de données. Par exemple, je vois des données qui sont pas du tout sécures. Là, c'est pas gênant que je les mette à tel ou tel endroit. Voilà. Si par contre, j'ai des données personnelles de mes clients ou les données médicales, si je suis à un hôpital, là, c'est important que je puisse avoir une garantie que ces données, elles seront traitées avec le bon niveau de sécurité. Si je suis une entreprise de recherche en France dans la défense, je veux que mes données, elles soient les données de mes fournisseurs ou me concernant, elles ne quittent pas le territoire national. Donc, le tout, c'est de fournir ça. C'est en fonction du niveau de sécurité dont tu as besoin, il faut être sûr que tu puisses aligner le service que tu mets en face. Donc, l'exigence, elle est surtout au niveau de la transparence. Mm-hmm. Si tu vas chez tel fournisseur de service et qu'il puisse te dire, tel service de stockage de données, voilà le niveau de sécurité qu'il propose et voilà dans quel pays la donnée sera traitée et par quel type de personne ça sera administré. C'est cette transparence-là qui est indispensable.
On va revenir sur tous les enjeux de sécurité et de cybersécurité juste après parce que c'est un sujet qui est hyper important. Mais tu as cité le modèle PaaS, IaaS, SaaS. Bon, moi, le modèle SaaS, ça, je vois. Mais PaaS et IaaS, je t'avoue que je nage. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est?
Alors souvent on commence par IaaS, mais je pensais par SaaS, c'est le plus connu. Le modèle SaaS, donc c'est Software as a Service. L'idée c'est quoi? C'est que au lieu d'avoir un logiciel sur ton ordinateur que tu fais tourner en local, en fait un logiciel qui apparaît sous forme en fait d'une page dans ton navigateur où tu fais des choses, que ce soit Gmail ou Dropbox ou Spotify, tout ça c'est des Software as a Service. C'est des services du coup. En fait c'est des services qui tournent dans le cloud que tu utilises. Et ce qui fait que toi, en local, tu as uniquement un client assez léger. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un petit bout de l'application qui tourne sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, mais l'essentiel se passe en face. Donc là, quelque part, tu es juste un utilisateur. Tu utilises l'informatique, mais tu ne fais pas de code ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment le niveau que la plupart des gens connaissent, en fait. À l'inverse, tu as le IaaS. Là, c'est Infrastructure as a Service. C'est vraiment la base du cloud computing. Alors, infrastructure, c'est... c'est les ressources informatiques. Donc le principe du IaaS, c'est fournir des ressources informatiques, mais comme un service. Donc ça veut dire qu'elles vont être non seulement à distance, mais Au lieu d'avoir mes propres serveurs et que je les achète, là, je les loue. Voilà. Donc, ça, c'est pour ça que c'est as a service. C'est des serveurs, donc c'est de l'infrastructure, mais au lieu de l'acheter, je la loue, et donc je la paye à l'usage, et donc c'est un service qui m'est fourni. Donc, c'est ça, le IaaS, simplement là, une façon de consommer des ressources informatiques pour ensuite les déployer des applications dessus ou que sais-je, mais dans lequel en fait tu vas payer à l'usage auprès d'un fournisseur de service cloud l'infrastructure dont tu as besoin plutôt que l'acheter toi-même.
D'accord. Il y a une question qui me vient en tête parce que depuis tout à l'heure on parle justement donc de l'explosion de technologie au niveau du grand public et des entreprises. On a également évoqué le fait d'avoir parfois le besoin de faire du backup, donc en plus de copier les données, et ce qui fait en fait des montants de données qui sont littéralement énormes. Et je me demandais comment aujourd'hui les services cloud font pour passer d'une scalabilité justement qui est linéaire, où en fait on a en fait le nombre de serveurs qui suit l'évolution du nombre d'utilisateurs et de données à stocker, à quelque chose de plus horizontal, avec une infrastructure qui finalement va être moins grosse et peut-être gérer les données différemment.
Là-dessus, il y a un élément qui nous aide, c'est la technologie. Effectivement, alors même si il y a une partie de l'évolution qui a changé, mais alors, en termes de calcul et de stockage, en fait, la technologie évolue très vite, et donc ce qui nous permet aujourd'hui de stocker dans le même volume ce qui prenait avant, on pouvait en stocker peut-être 100 ou 1000 fois moins dedans. En fait, si tu regardes aujourd'hui, j'ai des SSD de 2 Tera qui font cette taille-là. Moi, le premier disque dur que j'ai dans mes mains, il faisait 20 mégas et il était beaucoup plus gros. Donc, clairement, la technologie nous aide, que ce soit pour le stockage ou que ce soit pour la puissance de calcul. Alors, il y a une loi dont souvent les gens entendent parler, qui est la loi Moore, qui est une loi de multiplication en fait régulière de la capacité des processeurs. C'est une loi qui est empirique et qui est amenée à diminuer, mais qui donne bien une idée. C'est qu'en fait, tous les 18 mois ou 24 mois, on a vraiment une croissance de la productivité de nos machines qui nous permet de répondre aux besoins des clients. Donc, et les data centers grandissent quand même parce qu'il y a quand même une croissance importante, mais c'est-à-dire que la technologie aide à ce que ce soit pas une croissance exponentielle, mais simplement un peu plus maîtrisée.
D'accord. Et à ce sujet-là, alors en se renseignant un peu sur le sujet, on a vu passer les différences entre architecture monolithique et microservices. Sans trop rentrer dans les détails, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est un peu la différence entre les deux ?
Je t'avoue que les deux, moi, d'accord, je comprends rien. Donc, il faut l'expliquer à un enfant de 2 ans.
D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas non plus répondu complètement sur la question sur le PaaS tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on finisse ça d'abord.
Avec plaisir.
Donc, le IaaS, c'est en fait, j'ai des machines que je loue. Donc, au lieu de les acheter, j'ai loué. Mais j'ai quand même des machines. C'est-à-dire, j'ai quand même des serveurs. Ils sont peut-être virtuels, mais c'est comme si j'avais un serveur quelque part. J'ai des routeurs, j'ai des disques, ainsi de suite. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que ça, c'est une très bonne approche. Il y a un avantage surtout, c'est que ça permet aux entreprises, en fait, de se défaire de la gestion de l'infrastructure. Et souvent, pour ça, je compare avec la façon dont ça passait dans le cas l'électricité. Il y a, je sais pas, 100, 150 ans, les premières entreprises, en fait, elles avaient leur propre génératrice pour fabriquer l'électricité. Et puis un jour, elles sont passées à un modèle où vous allez se fournir auprès d'un fournisseur d'électricité. Et pourquoi ça fait sens? Parce qu'en fait, il y a un effet d'échelle et c'est aussi, ça permet à chacun de se focaliser sur ce qu'il fait le mieux. Voilà. EDF, il fait l'électricité. Et puis l'entreprise, elle travaille sur son business model, ses produits. Ben, c'est pareil pour l'informatique. C'est à un moment, le IaaS, ça permet de dire, aux entreprises, c'est pas la peine de passer votre temps à réfléchir à gérer une infrastructure informatique. Ça, c'est le fournisseur de services cloud qui le fait. Et comme ça, l'entreprise peut se focaliser sur son cœur de métier, à savoir créer de la valeur, créer des produits, créer des services. Et en fait, on est allé un peu plus loin dans ce modèle en disant, en fait, il y a d'autres choses au-delà d'avoir un serveur. Il y a d'autres choses où en fait, on pourrait le faire à la place de l'entreprise, que ce soit d'avoir la gestion des bases de données, que ce soit donc fournir tout un tas de couches qui sont au-dessus de l'infrastructure, qui permettent à l'entreprise de se focaliser sur quelles applications, quels algorithmes vont créer, mais pas de se préoccuper d'ensuite comment packager ces applications, comment les déployer. Ça aussi, au fur et à mesure, c'est de plus en plus les fournisseurs qui le font. Comme ça, les entreprises, elles se focalisent sur ce qui est leur cœur de métier. Et le fournisseur, il fournit non seulement de l'infrastructure qui gère, mais aussi tout un tas, donc une application de plateforme ou une plateforme qui permettent de déléguer tout un tas de tâches d'administration au fournisseur. Et comme ça, l'entreprise, elle fait elle fait l'essentiel de son cœur de métier. C'est vraiment un des éléments qui est important à voir dans le cloud computing, c'est ça permet de vraiment répartir et d'être plus efficace, parce qu'en fait, le fournisseur, il se spécialise sur un certain nombre de choses sur lesquelles il peut apporter de l'expertise avec un effet d'échelle important, et ça permet aux entreprises, aujourd'hui, alors que ce soit une grosse entreprise, mais ça marche très bien pour des startups, en fait, qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de se focaliser sur comment on gère une ferme de serveurs ou ce genre de choses, ils peuvent déléguer ça aux fournisseurs, ils payent uniquement à l'usage et ils se concentrent sur ce qui crée de la valeur pour eux. Donc, c'est vraiment ça que je trouve le modèle. Le SaaS, c'est un peu l'étape d'après. Si tu es aujourd'hui une startup, tu n'as pas nécessairement envie de gérer ton système de mail. Là où avant, il aurait fallu déployer un serveur et avoir ton propre serveur de mail, tu vas et tu prends des solutions mail en ligne SaaS. Là aussi, ça te permet, toi, là où tu crées de la valeur, tu t'en occupes, et ce qui peut être délégué à quelqu'un d'autre et qui tu le fais également, et c'est au final, tout le monde y trouve son compte.
Attends, je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Pour tendre progressivement sur les sujets de cybersécurité et de sécurité, moi je suis un peu un maniaque de la cybersécurité. Est-ce que ça peut être pertinent d'avoir chez soi un cloud, pas un cloud, mais plutôt un data center dans son garage où tu stockes une copie de tes data?
Déjà, un disque dur, c'est bien, sans aller au data center.
Faut que ça rentre sur ton disque dur. Hein.
Ah ouais, mais t'as un disque dur de 3 Tera.
Alors, si t'es capable de faire ça, je trouve ça cool. Bravo. Moi, ça, régulièrement, c'est un débat avec le reste de la famille. C'est est-ce que ça serait pas cool d'avoir un rack dans le garage? Mais en fait, voilà. J'irais, si t'es capable de faire ça, je te conseillerais plutôt, tu le fais pas. Et puis, en fait, tu vas voir une dizaine de grosses boîtes. Et tu leur dis, en fait, je suis un expert en cybersécurité. Vous pouvez m'embaucher parce que je peux dire que c'est très, très recherché. En fait, si pour faire ça avec le bon niveau de sécurité, il faut des compétences assez fortes. Donc c'est pas donné à tout le monde de le faire, et surtout ça n'est pertinent que si tu es capable de le faire et d'apporter un niveau de sécurité supérieur à ce que tu aurais chez un fournisseur de service cloud. Or un fournisseur de service cloud, il a la masse critique pour payer des experts, pour avoir des experts en cybersécurité, pour être à l'écoute régulièrement des failles de sécurité et qui sont mises en avant, que ce soit par les fournisseurs de chips, que ce soit par les fournisseurs de software. Donc c'est une tâche qui est, non seulement il faut, les gens s'imaginent une cybersécurité, je fais juste, j'installe un système et puis il est protégé. En fait, non, ça suffit pas. Il faut le mettre à jour en permanence. Donc, c'est un métier assez prenant. Et à moins d'avoir une expertise très particulière, en général, c'est difficile pour un individu d'arriver à faire ça aussi bien qu'un fournisseur de service cloud. Ou en tout cas, le nombre d'individus pour qui ça ferait sens est assez limité. En fait.
Et du coup,
c'est plutôt intéressant d'aller voir un fournisseur externe. Oui.
C'est quoi les gros enjeux en cybersécurité et en sécurité justement pour ces systèmes de data center?
Alors, les enjeux, ils sont à plusieurs niveaux. Il y a d'abord, il faut assurer une sécurité suffisante en termes, parce qu'on est quand même un service web. Donc, tu as tout un tas de systèmes de sécurisation, de mots de passe, de two-factor identification. Donc, au même titre que n'importe quel service web, en fait, il faut pouvoir avoir des systèmes d'identification et d'authentification de tes clients de façon pertinente. Dans le cadre d'un système pour entreprise, en plus, il faut pouvoir s'intégrer avec leur propre système pour avoir les mêmes droits d'accès. Donc, ça, c'est une des complexités également, c'est que généralement tu as plusieurs personnes qui ont accès à différentes parties de l'infrastructure même si elle est sur le cloud, donc faut pouvoir gérer tous ces accès là donc ça c'est vraiment toute la partie, s'assurer que tu puisses contrôler qui a accès ou pas. Mais après tu as d'autres éléments, c'est que en tant que responsable de serveurs qui sont partagés et utilisés par tout un tas de clients, tu dois notamment t'assurer que tu protèges ces serveurs avec suffisamment de sécurité, avec des pare-feux, que tu les protèges avec des systèmes qui évitent le déni de service, donc toutes les attaques qui pourraient se prendre, ça c'est quelque chose que le fournisseur de service cloud peut faire. Et puis il y a de la veille aussi sécuritaire, parce qu'on a de temps en temps des failles, ça peut être un fournisseur, donc Intel ou d'autres ou AMD, qui vont nous dire qu'il y a telle faille de sécurité, ou un fournisseur de software, que ce soit Microsoft ou VMware, qui sont des softwares qui sont déployés par plein de nos clients, qui dit qu'il y a une faille de sécurité, qu'il faut patcher et qu'il faut mettre une nouvelle version de logiciel pour le corriger. Là, notre rôle en tant que fournisseur de service cloud, c'est de prévenir le client, pour la partie qui est la responsabilité du fournisseur de services, bah, c'est de faire ces updates assez rapidement, donc de, pour que toujours le système qu'on a soit au dernier niveau. Mais parfois aussi, en fait, c'est les logiciels de nos clients ou les jeux que nos clients déploient qui peuvent avoir besoin d'être mis à jour. Et là, il faut qu'on informe nos clients, voilà, bah, faites telle ou telle opération pour être au meilleur niveau. Donc, c'est tous ces systèmes de sécurité-là qui sont super importants. J'ai tendance à dire qu'il y en a un qui est le plus complexe à gérer dans tout ça. Il n'est pas du tout technique, c'est l'humain. Et j'en parlais avec le patron d'une boîte de cybersécurité il y a quelques semaines. Et il me disait, la plupart des intrusions qu'il a vues, elles ont une composante humaine. C'est du j'appelle une personne. J'appelle quelqu'un et puis je me fais passer pour quelqu'un d'autre et puis j'ai un accès. C'est souvent par là que ça se passe. Alors pas seulement, alors qu'il y a aussi des cas où des gens mettent pas à jour leur système, donc ils se font attaquer, ou ça peut arriver également. Mais très souvent, c'est le facteur humain. Donc au-delà des chances, et là c'est plus la responsabilité du fournisseur de service cloud, c'est plutôt aux entreprises, ben, d'apporter l'éducation nécessaire, de former leurs équipes pour qu'ils se rendent compte que en fait il y a un certain nombre de choses toutes simples. Ben, c'est un exemple particulier, c'est tu trouves une clé USB dans un parking, bah tu la mets pas sur ta machine. Voilà. Ouais. Non, mais tu la mets pas dans ta machine non plus pour voir ce qu'il y a dessus. C'est des trucs tout bêtes en fait. C'est si tu le sais pas, ça a l'air totalement anodin. En fait, tu peux faire pas mal de dégâts avec des choses assez simples. Donc c'est souvent la partie la moins contrôlable, c'est la partie humaine. C'est pour ça qu'il faut des formations. C'est pour ça qu'il faut le faire de façon régulière. C'est cette partie-là, moi, sur laquelle je mets souvent l'accent, parce que c'est celle qu'on a tendance à oublier. Ouais.
Quand on se connecte chez OVH, on a besoin d'un mot de passe ou pas ?
Mot de passe et identification, donc tout, avec ton téléphone. C'est quand okay. Tu mets ton login, ton password, double identification avec ton téléphone en plus. Ouais.
Et en termes de vulnérabilité aujourd'hui, est-ce que tu penses que les entreprises cloud sont assez renforcées au vu de tout ce type d'attaque?
Alors, je pense qu'elles le sont. Je touche du bois. Oui, alors, elles le sont parce que je vois, en tout cas moi, de ce que j'ai pu voir chez OVH, la qualité des gens qui sont sur ces sujets-là est importante. Parce qu'en fait, c'est aussi un endroit où tu peux apprendre beaucoup de choses. Donc, ça attire aussi des profils. Pour moi, le niveau de sécurité, il est très élevé. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début du cloud, il y a 15-20 ans, c'était un peu la question. C'est est-ce que en allant de on-premise, donc c'est chez toi, l'ordinateur qui est chez toi, à cloud-based, est-ce que tu perds en sécurité? Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, tu vas y gagner. Alors, pour deux raisons, en fait. Soit, si c'est une petite boîte, avoir les compétences en cybersécurité requises face au type de menace que tu as aujourd'hui, c'est quand même difficile. Si t'es une boîte de 15-20 personnes, coûte cher les ressources de cybersécurité. Sur une grosse boîte, c'est un peu différent. Tu peux avoir les ressources, mais après, t'as un volume qui est assez énorme, et notamment avec à part des cas très particuliers, je pense que le fournisseur de service cloud, il peut fournir le niveau de sécurité requis, voire un niveau supérieur à ce que t'aurais toi si t'essayais de le faire de ton côté. Donc, je pense que c'est robuste. Maintenant, est-ce que c'est infaillible? Non,
sûr, ouais.
Ça peut arriver. Il y a eu des cas comme ça. Il y a des choses auxquelles qui sont difficiles à anticiper. Le tout, c'est de se dire, c'est pas infaillible. Il faut toujours avoir les deux. C'est comment on le rend aussi infaillible que possible, mais comment on gère les cas où ce sera pas le cas. Et donc, pouvoir répondre à des failles, à des problèmes très, très vite, en fait. Et c'est souvent une question de temps. C'est, par exemple, on voit, et donc là, en général, les gens qui font la cybersécurité font de la veille. Lorsque quelqu'un découvre une faille potentielle, ça se sait assez vite dans les communautés. Donc la question, c'est à quelle vitesse tu vas pouvoir mettre à jour tes systèmes pour te protéger avant qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'exploiter pour faire une attaque. Donc ça, c'est souvent ça. Donc c'est pour ça que il faut des gens compétents et il faut des gens en permanence. C'est pas un truc que tu fais une fois pour toutes, quoi. C'est un truc. C'est du 24/24, 7 jours sur 7. Il faut le surveiller et il faut être prêt à réagir.
Parce qu'en plus, c'est vrai que sur le cloud, il y a en fait plusieurs points d'accès adressables pour un pirate, dans le sens où tu peux attaquer le fournisseur, tu peux attaquer l'utilisateur, tu peux essayer aussi attaquer même la transmission des données entre les deux. C'est quoi le moins solide aujourd'hui, tu dirais, entre toutes ces étapes-là? Est-ce que c'est
j'ai pas les chiffres, juste l'hypothèse, c'est que c'est côté client, c'est okay. Plus le plus risqué. La connexion en général, elle est assez protégée. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, tu vas utiliser un VPN ou à minima, le nombre de, enfin, si tu utilises un site pour le coup, le nombre de sites qui sont HTTPS est assez important. Alors, et bon, de plus en plus, les sites imposent des niveaux de sécurité, d'implémentation, de RSA, des clés privées qui sont, enfin, des clés qui sont assez élevées pour te protéger. Donc, la transmission, elle pose pas vraiment de soucis. Bon, les data centers sont quand même très protégés. Alors, le risque, il est à deux niveaux. Il est soit au niveau de ton client, toi, si tu es un utilisateur, où là, effectivement, le risque principal, c'est est-ce que tes mots de passe sont protégés? Est-ce que tu utilises pas les mêmes mots de passe sur plein de sites? Parce qu'en fait, du coup, si le risque, c'est que si tu as un site sur lequel tu as utilisé mot de passe qui se fait plomber, que les gens utilisent ce mot de passe pour d'autres éléments. Donc, les failles, elles sont beaucoup côté client. Ou sinon, elles peuvent être côté serveur si l'administration est pas super bien faite. Mais là, à la limite, c'est pas le fournisseur de service cloud qui sera en cause dans ce cas-là. C'est bah, si par exemple tu vas et tu loues un serveur et tu déploies un site web sur un serveur d'OVH, mais que ce site web tu l'administres toi-même et que tu l'administres pas au bon niveau à la baie, bah, là effectivement t'as un risque, mais il est pas lié au fait d'utiliser cloud.
Ok, et l'autre risque pour un utilisateur, en tout cas ce qu'on pourrait imaginer, c'est de se dire finalement je confie mes données à quelqu'un, donc bien sûr on peut les attaquer potentiellement et les découvrir pour un pirate externe, mais même le fournisseur de cloud, en fait, est-ce que je peux lui faire confiance? Comment ça se passe au niveau technique? Est-ce que les données sont brutes? Est-ce qu'elles sont encodées, cryptées? Comment vous gérez ça de votre
Alors
côté?
moi c'est un de mes sujets préférés parce qu'en fait c'est j'ai souvent en fait aux entreprises c'est parce qu'elles se rendent compte de plus en plus mais l'idée c'est que de plus en plus la valeur elle se trouve dans ces données en fait
Oui, tout à fait.
et de plus en plus ces données ça sera en gros les deux assets principaux d'une entreprise ça sera les
Et
humains
les
et les
données.
données voilà bon les humains peuvent pas faire grand-chose dans les au service cloud, c'est pas notre métier. Mais en gros, c'est on demande à nos clients quelque part de nous confier le truc le plus précieux de leur business model. Voilà. Donc effectivement, ça dépend de quoi? Ça demande de la confiance. Et donc, il y a plusieurs niveaux de garantir cette confiance. Il y a effectivement, alors tu peux te protéger toi en tant qu'utilisateur si tu utilises des services et que tu mets en place du cryptage.
Ouais, en amont donc.
Tu peux le faire. Mais je pense que le plus important, c'est que tu aies confiance dans ton fournisseur. Pour ça, il faut que tu t'assures que ton fournisseur, il garantisse la sécurité de tes données. Donc, c'est-à-dire que ton fournisseur, il soit capable d'avoir une sécurité à la fois logicielle, qui puisse garantir l'accès, qui puisse avoir des systèmes d'authentification qui soient suffisamment avancés. Il faut aussi qu'il y ait de la résilience. Donc, notamment en tout cas, que tu sois clair avec ton fournisseur sur quel niveau de résilience il fournit. Est-ce qu'il fait des backups? Sinon, toi, tu peux en faire. Et c'est là aussi qu'il y a la confiance, c'est qu'on sait ce que je fais, ce que tu fais, et entre nous deux, on est assez protégés. Et puis après, il y a d'autres aspects qui sont un peu plus importants, c'est que même si tu as confiance dans ton fournisseur, quelles sont les lois qui s'appliquent à ton fournisseur, quelles sont et ça, c'est d'autres questions, en fait, il faut que tu ailles regarder au-delà de ton fournisseur de cloud. Mais je pense qu'il y a, il y a, il y a pas vraiment de source, de raison de s'inquiéter quand tu vas vers un fournisseur de cloud normal, parce que les données sont la plupart du temps cryptées, ou tu peux toi t'arranger pour qu'elles le soient. Et il y a quand même, enfin c'est un peu que je finis, bah ouais, c'est la même façon. Tu confies le
Tu confies
contenu de
ton
ta
chien à
maison
la
au
voisine,
fabricant de ta
ouais.
serrure, parce qu'en fait voilà, bah, à un moment t'as un niveau de confiance que tu peux avoir effectivement. Mais je dirais que par rapport aux craintes qu'il y a pu y avoir au début de l'émergence de ce marché, aujourd'hui on est quand même beaucoup plus confiant. Il y a peu de cas où il y a eu des failles de sécurité fortes, où il y en a eu, mais assez rares. Et dans l'ensemble, dans le rôle de fournisseur de service cloud est quand même encadré par des lois qui sont assez fortes, notamment en Europe. Donc, tu es relativement confiant, c'est-à-dire que tu peux donner tes données et être confiant sur le fait qu'elles restent à toi, que personne d'autre y aura accès et que ton fournisseur va pas non plus s'en servir. Je pense que
Pour
ça,
revenir un
c'est
petit peu
un
sur ce
point
qu'on se
important.
disait tout à l'heure, est-ce qu'un gouvernement pourrait accéder à ces datas? C'est souvent un sujet qui revient dans l'actualité.
Oui.
Je ne sais pas à quel point c'est vrai, c'est faux. Est-ce que demain, le gouvernement français ou le gouvernement américain peut appeler OVH et vous dire je veux les datas de telle boîte ou de telle personne pour faire de l'espionnage industriel, pour éventuellement récupérer des datas stratégiques, je sais pas.
Le gouvernement peut pas. Ce qui peut, c'est un, voilà, après c'est au sens, voilà, l'exécutif peut pas. C'est une question judiciaire. Plutôt, ça c'est plutôt ça, et t'as effectivement des réquisitions. Donc oui, aujourd'hui, mais comme tout, tu vois, c'est si jamais il y a une enquête et que tu as un juge qui pense que d'un point de vue légal, il y a suffisamment de suspicion, par exemple, pour dire que sur tel serveur de tel client d'OVH, on a les éléments suffisants pour se dire qu'il y a des preuves d'un crime, ben tu peux avoir une demande d'un juge de la même façon qu'un juge peut accéder à chez toi. C'est-à-dire, tu peux avoir un mandat ou pour pouvoir ouvrir ta maison. Donc on est soumis aux lois locales qui font que pour les besoins d'une enquête et sous contrôle d'un juge et dans le respect de la loi, il y a un procédé par lequel on peut avoir une réquisition judiciaire qui nous est envoyée. Là, ça implique le légal chez OVH et on se doit d'y répondre si s'ils suivent la loi, et on peut donner accès à des données, de même que voilà, on peut donner accès à ta maison, à la police, si on considère qu'il y a les éléments suffisants. Donc il y a cet aspect-là, en fait. Alors là où c'est intéressant, c'est de dire quelle loi qui s'applique.
Mais si, par exemple, c'est une entreprise chinoise qui est domicile, qui stocke ses datas en France, est-ce que le gouvernement français peut demander au propriétaire du data center de donner accès à ces données?
En fait, ça dépend pourquoi faire. Si jamais l'entreprise chinoise a été reconnue, il y a une forte, s'il y a une enquête.
Si c'est juste pour faire de l'espionnage.
Non, ça par contre non.
Et ça, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Et ça ne peut pas exister.
Écoute, je sais que dans les films, il y a des gens qui descendent avec des fils dans des data centers et qui mettent des trucs.
Avec les USB.
Mais non, c'est pas. Il y a deux raisons qui font ça. C'est un, c'est
Frédéric,
pas.
Je t'entends plus.
Alors que quelqu'un s'introduise dans un data center quelque part pour piquer des données, genre, est-ce que c'est physiquement possible? Ok. Maintenant que un gouvernement ait des backdoors, en tout cas, voilà, c'est moi des 6 ans que j'ai passé chez OVH, c'est pas quelque chose qui me paraît faisable. En plus, je suis même pas sûr que ce soit plus efficace. Si aujourd'hui tu veux accéder aux données d'une entreprise chinoise, je pense qu'il y a plein d'autres moyens. Ou si le gouvernement chinois veut accéder aux données d'une entreprise française en Chine, par exemple, il y a peut-être d'autres moyens. Alors, je pense que là, il faut faire des distinctions entre les pays. Et je pense que c'est là que le point important. Si t'es en Europe et si t'es en France, t'es très protégé. C'est au sens où ce genre de choses n'est pas permis. On protège la vie privée, on protège les données des entreprises, et à moins d'un cadre d'une enquête particulière avec un juge et ainsi de suite, t'as pas de système qui fait que le fournisseur de services va donner accès, il n'y a pas un mot de passe spécial qui est donné aux autorités pour qu'elles aillent faire ce qu'elles veulent. Après, je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays où la loi est pas aussi forte. Là où aussi il y a une différence, tu vois, c'est que alors en Europe, on a légiféré de façon assez forte sur ces sujets-là. Là où c'est une subtilité, c'est, tu pourrais dire, mais en fait, du coup, la question, c'est la loi du pays. Tu as des pays où potentiellement la loi est beaucoup moins regardante sur à quel point les services de sécurité peuvent avoir accès aux informations. Alors, tu pourrais dire, dans ce cas, c'est simple, je mets pas mes données, tu vois, je vais pas les stocker, mes données personnelles, dans une dictature. Tu peux dire, si je les stocke en France, je suis protégé. Parce que si je les stocke en France, c'est la loi française qui s'applique. Et en fait, la subtilité, c'est que c'est pas nécessairement le cas. Parce qu'en fait, t'as certains pays qui ont un truc qui s'appelle les lois extraterritoriales, qui s'appliquent en dehors de leur pays. Si par exemple, c'est les US, mais pas seulement, si t'as un fournisseur américain qui a des données en France, qui a un data center en France, qui a même une filiale française, en fait, si un juge américain le souhaite, il peut forcer l'entreprise et la filiale européenne d'une entreprise américaine à donner accès aux données pour le juge américain. Donc, si tu as une enquête, ça veut dire que tes données sont en France, dans une entreprise qui normalement est établie en France, mais qui est filiale d'une boîte américaine. Mais les lois qui s'appliquent, c'est les lois des États-Unis et pas les lois françaises.
Ok. Et vice versa.
Donc ça c'est un point qui est assez complexe, mais qui est assez spécifique au cloud, parce qu'en fait, ça pose des vraies questions de souveraineté, parce que une bonne partie des gros fournisseurs de cloud sont américains. Et donc, une bonne partie des clients de ces fournisseurs le savent pas, mais ils sont soumis à un truc qui est un mix de la loi française et puis aussi potentiellement d'une loi américaine. là où potentiellement d'ailleurs les deux sont pas compatibles, parce qu'en fait ces lois extraterritoriales elles sont pas compatibles avec les lois de RGPD françaises, donc c'est un peu compliqué.
Et si je mets mon data center au milieu de la mer Méditerranée, il se passe quoi?
Ah, c'est une bonne question.
Il n'y a pas de loi.
C'est la guerre. Je pense qu'il y a plein de questions qui se posent, qui sont. Je pense que la question elle est plus juridique que physique ou climatique ou. Sinon, en termes de business model, faut voir peut-être qu'il faut que tu combines ça, que tu mettes un bar ou des trucs sympas dessus. Pour. Je saurais pas dire, parce que je suis pas expert dans le domaine, parce que quelles sont les lois qui sont internationales, enfin les lois, pardon, dans les eaux internationales.
Parce que du coup, c'est les lois des eaux internationales qui s'appliquent. Parce que ce qui compte, c'est la je sais pas comment on dit, la localisation, c'est plus simple, du data center.
Oui, alors après, la question, c'est, t'as location de data center, mais t'as aussi, qui est le fournisseur de ce data center, en fait. Si pour le coup, c'est un data center qui est au milieu de la Méditerranée, mais qui appartient à une société américaine.
Là, le droit américain.
Elle tombe sous les lois de Cloud Act et Patriot Act. Donc, en fait, la loi américaine s'applique, même si tu pensais dans les eaux internationales et comme les gens qui faisaient des radios privées au tout début de la FM.
Ok. Sujet complexe quand même, hein. Sujet complexe.
Oui, oui. Alors, c'est un sujet qui est très complexe parce qu'en fait, il a des impacts assez forts. Mais comme tu dis, c'est pas, tu vas pas en faire une manchette en première page. Et c'est pour ça, là, par exemple, je sais pas j'ai vu qu'il y a des discussions sur les échanges de données entre les États-Unis et la France ou l'Europe.
Ils vont revenir sur ce qui avait déjà
été. C'est des sujets, on a dit, dont les gens se préoccupent peu, ça attire pas facilement on dit, quel impact ça a pour nous. Mais c'est un impact réel, en fait, qui est assez profond, mais qui a une grosse partie légale, une grosse partie technique, mais à la fin, c'est vraiment sur,
c'est politique,
la valeur
en
des
fait.
Entreprises et sur ta vie privée. Donc, c'est assez important.
Et tu penses que ça devrait être plus un sujet? On devrait plus comprendre ce qui se passe et où est nos données, à qui elle appartient, à quel moment elle est notre propriété, à quel moment elle l'est plus, quelle valeur elle a, etc.
Oui, je pense clairement. Et là, pour le coup, c'est moins une question, c'est même plus seulement une question technique, pour moi, c'est une question sociétale. C'est et la traçabilité de tes données, où est-ce qu'elles sont, par qui elles sont utilisées? Je pense que ça c'est un élément qui est important. Je pense que c'est un élément d'éducation aussi important, notamment pour des générations plus récentes, où en fait, je sais plus où je lisais comme statistique que des générations plus récentes à 40 à 50% de leur vie qui a une doublure numérique, c'est-à-dire qu'en fait qui est logué, tracé et que tu peux retracer en fait 50% de leur vie juste en regardant ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes ce qu'on peut faire aujourd'hui avec du GenAI en utilisant des photos, donc il y a une vraie question aujourd'hui de tout ce qu'on produit comme données, qu'est-ce qu'elle devient en fait. Alors je pense pas qu'on arrivera facilement à contrôler. Je pense qu'il est important de savoir ce qu'elle peut devenir de façon à ce qu'on soit plus vigilant sur certains types de données. Tu vois, il y a un gros débat là récemment avec le lancement de Threads qui à un moment pouvait pas être lancé en Europe. Parce qu'il est contraire à la RGPD, mais je pense que ça, typiquement, c'est le genre de cas où ça m'intéresse de voir les réactions, parce qu'en fait, oui, c'est un problème. Si tu as une application qui, comme ça, au passage, te dit qu'elle peut collecter des informations personnelles sur toi et qu'elle va s'en servir dans son business model, je pense que c'est important qu'on soit vigilant, en fait. Donc, je suis curieux de voir si c'est un niveau de vigilance qui va augmenter.
Au moment où on tourne cet épisode, donc Thread a été lancé il y a 7 jours, et hier, il y a une nouvelle loi qui est passée à l'Union européenne qui assouplit le RGPD pour permettre à cette application de se déployer sous certaines conditions encore. Il risque encore d'y avoir d'autres évolutions, d'autres lois qui vont passer là dans les prochains jours. Mais pour autant, ça fait 7 jours qu'on a l'impression que c'est pas un sujet. Et par exemple, moi, je me suis fait un compte aux US pour accéder à l'application. Parce que j'étais curieux et que je trouvais que cette curiosité était plus élevée que ce qu'ils vont prendre de mes données. Mais en même temps, je ne sais pas quelles données ils prennent.
Mais je pense que ça, c'est un point... C'est peut-être là-dessus que c'est le plus complexe. C'est que c'est indolore, en fait. C'est-à-dire que quand tu as des données qui... Enfin, quelque part, quand tu perds le contrôle sur tes données, ou quand tes données sont disséminées et puis tu ne sais plus où elles sont, tu ne t'en rends pas compte, en fait. Tu te rends compte le jour où elles sont utilisées à bon escient. Et je pense que la solution pour ça, c'est pour le coup de cette vigilance. À la limite, le choix, utilises tel réseau ou pas. Moi, j'utilise certains services sur des fournisseurs américains. Il faut que ce soit une décision éclairée, en fait. C'est pas dire on veut interdire à tout le monde de partager ses données, parce que ça, je pense que c'est une solution qui est jusqu'au boutiste, où tu dis non, je partage pas mes données, mais du coup, je pourrais pas non plus en avoir les bénéfices. Je pense qu'il faut, il faut que quand tu le fais, tu saches pourquoi tu le fasses. Moi, je suis toujours assez frustré de voir, lorsque t'as les conditions générales, on est tous, on scroll, on clique. Je trouve que ça s'est un peu amélioré. Je trouve notamment les plateformes mobiles, que ce soit sur Android ou Apple, ont compris un peu et rajoutent des choses qui rendent plus intelligibles les autorisations que tu donnes, à quoi tu donnes accès à telle application, t'encourages à pas laisser les applications avoir accès à tes localisations permanentes. Donc il y a un peu de progrès aussi à ce niveau-là, qui va de pair avec une plus grande vigilance. Mais je pense que le risque, il est vraiment là. C'est comme tu le dis, il y a la curiosité. À la limite, c'est OK que la curiosité faille que tu ailles prendre ce service-là, sachant qu'il y a des risques. Le tout, c'est qu'il faut que tu aies bien conscience des risques. Et ça demande à la fois de la transparence de la part du fournisseur, qui ne te demande pas, mais il faut aussi une éducation de nous tous pour qu'on soit conscient de ce que ça veut dire que de signer en bas de la page, de cliquer sur telle case à cocher.
Est-ce que quand on rejoint OVH, les conditions sont très claires et on sait exactement en un coup d'œil à qui appartient la donnée, où est-ce qu'elle sera, comment elle sera exploitée, etc.
Oui, alors c'est assez simple pour OVH parce que OVH, c'est ce qu'on appelle un pure player. Ils font que du service cloud. Donc eux, ils fournissent des infrastructures ou du PaaS ou du IaaS, mais ils n'ont pas un autre business à côté. Tu vois, si tu regardes les autres, Amazon, ils ont AWS, mais ils sont aussi Amazon. Donc en gros, aujourd'hui, tu es client d'AWS, donc tu es un site de e-commerce, tu déploies tes services sur l'infrastructure d'Amazon, qui est potentiellement aussi ton concurrent à côté. Google, ils ont d'autres business que celui de faire du cloud. Microsoft aussi. La facilité pour un client, pour un fournisseur comme OVH, c'est de dire, maintenant, nous, on fournit juste de l'infrastructure et du PaaS. Vos données restent à vous. On les prend pas. On s'en sert pas. Et puis, le jour où tu pars, de toute façon,
Tes data et nous, on les supprime.
On récupère tes pas. Données. Et puis, voilà. Et je pense que c'est beaucoup plus simple pour ça, pour OVH, parce que, en gros, il n'y a rien dans notre business model qui nous permettrait d'utiliser ces données que tu as exploitées chez nous à mauvais escient.
Et du coup, comment tu choisis un cloud? Comment tu sais que vaut mieux aller pour tes besoins chez OVH ou chez AWS ou chez Google ou chez Microsoft?
Alors, déjà, tu n'en choisis pas toujours qu'un. De plus en plus, les gens vont vers un modèle. Alors, tu as deux types de modèles, en fait. Tu as hybride et multi-cloud. Donc hybride, c'est que tu as à la fois des choses en cloud et puis des choses que tu gardes encore en legacy sur ton site. Et de plus en plus, c'est des gens qui n'utilisent pas un mais plusieurs fournisseurs de cloud. Donc ils ont une partie de leurs applications chez le fournisseur A et l'autre sur le fournisseur B. Et voilà. Et donc la question, c'est comment tu les choisis. Je pense que la première chose que tu fais, c'est que tu regardes les questions de confiance. Et là, je dis toujours aux clients, c'est faut que vous sachiez clairement, quantitativement, qu'est-ce que vous avez comme service, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous voulez déployer. Les fournisseurs ont des features, des fonctionnalités différentes, donc tu peux choisir en fonction de ça. Après, il y a aussi une relation de confiance. Une bonne façon d'assurer la relation de confiance, je dis toujours, au moment, le truc le plus important, au moment où tu choisis un fournisseur cloud, c'est que tu poses la question, comment tu vas le quitter. Je m'explique, en fait. C'est... l'erreur que font souvent des personnes, c'est « Ah tiens, je vais aller vers le cloud, ça a l'air mieux, c'est plus simple. » Et puis, un ou deux ans après, en fait, leur système, il a très bien marché, leur besoins, ils ont fait x10. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup plus cher que prévu. Puis là, ils veulent récupérer leurs données. Là, ils se rendent compte qu'en fait, ils doivent payer pour récupérer leurs données ou qu'ils utilisent des services qui sont propriétaires. Et là, du coup, ils sont, on appelle ça « lock-in », c'est qu'ils sont bloqués avec un fournisseur. Ce qu'on dit toujours aux clients, c'est que c'est important que vous anticipiez ça, parce qu'à un moment, pour pouvoir rester en maîtrise, il faut que tu puisses à tout moment partir. Ça ne veut pas dire que tu vas pas rester chez le même fournisseur 10 ans, mais tu sais que à tout moment, si tu peux, c'est réversible. Tu sais combien ça te coûterait, combien de temps ça prendrait pour passer d'un fournisseur A à un fournisseur B. Voilà. Donc ça c'est un point, c'est un bon angle d'attaque, parce qu'en fait, ça te permet... toi, te poser les bonnes questions, et puis ça te permet d'éviter d'ici, enfin, de choisir un fournisseur parce que Ils te proposent des vouchers, ils te donnent la capacité gratuite parce que t'es la meilleure startup du monde, et que tu dis, bah, tiens, je paierai pas d'IT pendant 6 mois, comme ça, je pourrais peut-être payer mes employés. Et 6 mois plus tard, tu te rends compte que la facture, elle tombe et qu'elle est beaucoup plus élevée que ce que tu croyais parce que, ah bah, ça tombe bien, mon service marche bien, mais du coup, il est moins rentable parce que en IT, ça me coûte plus cher, en fait. Donc, c'est important de se projeter dans l'avenir, y compris dans un cas où j'arrête avec ce fournisseur.
Et pour une entreprise qui envisagerait justement de migrer vers un cloud qu'il n'a pas encore fait ou de changer de fournisseur, à quel point c'est difficile ou qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui pour cette migration ?
Est-ce que même avant, c'est possible de migrer de OVH à AWS, par exemple ?
Alors, c'est possible. Alors, je sais que OVH et AWS, c'est relativement simple parce qu'en fait, soit tu utilises du IaaS, en fait, c'est des machines, en quelque sorte. Donc, c'est la même chose, c'est même plus simple qu'une migration. Soit tu utilises nos services de PaaS, mais nous, on essaye autant que possible, OVH essaye autant que possible d'utiliser de l'open source, d'utiliser des standards, d'utiliser des outils, par exemple, de déploiement pour tout ce qui est public, enfin, tout ce qui est PaaS. On utilise des choses qui sont reconnues sur le marché. Donc, tu peux déployer chez OVH ou déployer ailleurs assez facilement. Donc c'est assez simple de migrer pour ça, et puis dès le début, par exemple les modèles de pricing font que tu payes pas la donnée en sortie, donc tu peux récupérer des données, t'as pas de problème, tu vas pas payer pour sortir tes données, ce genre de choses.
Ça existe.
Voilà. Ça existe.
Chez qui ?
Donc je sais que d'OVH à ailleurs c'est possible parce que je sais qu'ils y travaillent beaucoup. Les autres fournisseurs vers OVH, je pense pas que ce soit toujours aussi simple pour plein de raisons. Alors après il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir des raisons techniques, des raisons business. Si par exemple ton fournisseur de cloud, c'est aussi ton fournisseur d'application, tu peux te retrouver bloqué par ailleurs. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui font que là aussi travailler avec un pure player, ça peut être plus simple. Mais peut-être pour revenir à la question de Paul, comment tu abordes ça? Je pense que la première chose, c'est que tu dis, d'où je pars? C'est quoi mes ressources? C'est quoi mes applications? C'est quoi mon architecture? Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu vas migrer dans le cloud, à quelle vitesse tu vas le faire et qu'est-ce que tu vas migrer en premier, ça dépend de ça. Donc déjà, tu vas regarder, est-ce que mes applications, c'est des vieilles applications monolithiques, des trucs assez anciens que j'avais déployés il y a 20 ans, tu sais que ça sera plus difficile. Si c'est des applications plus modernes qui sont déjà, dont l'architecture est déjà sous forme assez standard avec des containers, enfin plein de technologies récentes qui facilitent le travail des informaticiens pour déployer des applications, ça en général, c'est facile à déployer sur le cloud. Donc tu regardes déjà ça, à quel point par type d'application que j'ai, quelle partie sera plus facile à faire. Tu regardes ensuite la partie sécurité. Est-ce qu'il y a des parties qui nécessitent un niveau de sécurité donné? Parce que ça va changer le type de service ou de fournisseur que tu vas prendre. Et puis le troisième point, c'est est-ce que cette application, elle est appelée à changer ou à grossir? C'est-à-dire, en haut, est-ce que c'est un truc, c'est le truc sur lequel on va bosser, on va innover dans l'année à venir. Donc, faut que je puisse le mettre à jour toutes les deux heures. Et aussi, je m'attends à ce que la demande, elle fasse x10, en fait. Donc ça, c'est le troisième point, en fait. Et pourquoi ce troisième point? Parce qu'en fait, clairement, ce genre de profil, ça, c'est quelque chose où être dans le cloud, c'est plus simple parce que c'est plus facile de faire du coup du déploiement et de pouvoir aussi répondre à la demande. Donc, faut vraiment partir de là, bien comprendre c'est quoi ton architecture technique existante, suivant ces trois critères. Et puis après, quelles sont tes capacités en interne? Est-ce que tu as des gens qui sont capables de le faire, cette migration? Est-ce qu'il faut que tu prennes un partenaire, un intégrateur, souvent t'as le fournisseur de service, t'as le client et t'as un tiers qui va aider à faire les migrations. Ça, je pense que c'est important de le faire dans ce cadre-là aussi. Et puis après, tu définis à quelle vitesse tu vas. Mais le point le plus important pour que ça marche, c'est la première étape. Et c'est en fait migrer vers le cloud, c'est une transformation. Comme toute transformation, c'est une super opportunité. Parce qu'en fait, pour faire ça, c'est un peu comme quand tu déménages, en fait. Alors, tu vas d'un appart à un autre, en fait, ça va te forcer à ranger, à faire le tri, à nettoyer. Voilà. Maintenant, si tu prends pas le temps et qu'en fait, quand les déménageurs, ils débarquent, t'as pas fait tes cartons et il y a encore la poubelle qui est pleine, ça va pas bien se passer. C'est pareil quand tu migres vers le cloud. Faut que tu donnes le temps d'avoir fait l'état des lieux, qu'est-ce que tu déploies. Et peut-être, tu vois, au passage, tiens, t'as telle application, tu l'avais pas mise à jour, c'est une architecture qui est assez ancienne, c'est peut-être l'opportunité de la mettre à jour en même temps que tu passes vers le cloud. Donc, transformer ça comme une opportunité d'aller, de documenter ce qui est implicite. Voilà. Donc, c'est une vraie opportunité au-delà de simplement de l'avantage du cloud. c'est que ça te force à prendre sur recul par rapport à ton architecture informatique et puis les besoins que tu pourras avoir dans l'avenir. Quelque part, c'est force à te poser les questions, c'est ça va être quoi la trajectoire de ton entreprise d'ici 1, 2, 3 ans, en fait. Donc ça peut être une source d'apprentissage assez intéressant.
Et j'imagine c'est des questionnements aussi qui viennent s'inscrire dans les modèles de tarification à choisir dans le cloud. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait par exemple du cloud à la demande, il y a des abonnements plutôt fixes, etc. C'est des choses qui rentrent en compte aussi dans ce genre d'études.
Oui, alors tu as différents types de tarification. Le plus souvent, le modèle du cloud, c'est un modèle où tu vas payer à l'usage. Donc en général, tu vas payer, alors ça peut être au mois, ça peut être à la journée, ça peut être à l'heure, ça dépend des types de tarification. Et l'idée, c'est que tu suives, que tu vas aussi vers le cloud pour ça, c'est tu as besoin de flexibilité. En fait, un des éléments majeurs du cloud, c'est de répondre à des variations de demande. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as de la saisonnalité. Donc si par exemple, tu as un site de e-commerce, ben, en décembre, tu auras sans doute plus de trafic avant Noël qu'en janvier. Donc c'est intéressant si tu peux ne payer que la capacité en décembre et puis tu la payes pas en janvier. Ça, c'est pour ça, c'est peut être une des raisons d'aller vers le cloud. L'autre intérêt, c'est par exemple, nous, lorsqu'il y a eu le Covid, on a vu plein de nos clients qui d'un coup avaient une demande beaucoup plus forte parce que les gens étaient passés sur un mode beaucoup plus online. Là aussi, l'intérêt du fournisseur cloud, c'est que il va te permettre facilement de monter en capacité puis de redescendre et de payer en fonction de ce que tu as utilisé. Alors après, donc c'est à l'usage. Et ce que tu peux rajouter, c'est des modèles où, bah, si tu sais que tu auras besoin d'un minimum, bah, là, tu peux te committer. Donc, tu dis, bah, je vais prendre telle capacité et je vais la payer moins cher parce que je m'engageais à la prendre pendant X mois. Et par contre, le supplément, je le paierai en fonction de l'usage. Donc, tu as beaucoup de flexibilité là-dedans. Et à la fin, là où c'est intéressant, c'est que ça veut dire que tes ressources informatiques, en fait, la quantité, enfin, ce que ça te coûte varie en fonction de tes besoins et donc de tes revenus, en fait. Donc, tu variabilises le coût. Donc, si tu es une entreprise, là où avant, tu avais ce qu'on appelle du CAPEX, donc tu allais mettre 1 million ou 2 millions pour une infrastructure informatique que tu n'allais peut-être pas utiliser complètement, là, en fait, tu ne payes pas ce montant important au début et tu payes uniquement lorsque la demande arrive et donc lorsque les revenus arrivent. C'est pour ça que c'est un modèle qui est très adapté quand tu es une startup, c'est qu'en fait, ça réduit énormément tes coûts initiaux et quelque part, ça essaye autant que possible d'aligner le coût de ton info, de ton informatique avec de ton activité économique, donc ton chiffre d'affaires.
Quand tu choisis un cloud, est-ce qu'il y a des trucs sur la tarification auxquels il faut que tu fasses attention ? Je vais te faire un parallèle avec la finance perso. Par exemple, pour moi, quand tu fais un placement en finance perso et qu'on te prend des frais annuels, souvent c'est un red flag. Souvent, ça te bouffe ta performance et c'est pas, ça aligne pas les intérêts de l'un et de l'autre. Est-ce que tu as des trucs comme ça dans le secteur du cloud où c'est des gros red flags ?
Alors, là où je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est un red flag à deux niveaux. C'est un, d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire que tu as peut-être des choses, c'est-à-dire que le retour sur investissement sera moindre parce que tu vas avoir des coûts plus élevés que tu n'avais pensé. Et je pense qu'après, il y a aussi une red flag en termes de confiance. Donc, si jamais, en fait, tu vas alors un partenaire financier c'est quelqu'un à qui tu confies tes économies pour qu'il les fasse fructifier, donc tu lui confies quelque chose d'important pour toi. Si dans sa tarification il montre que il a un mindset qui est pas tellement collaboratif et aligné avec le tien, ouais, c'est qu'il y a un problème de confiance. C'est pareil pour le cloud. Si jamais ton fournisseur de service cloud, cette tarification, elle te fait penser qu'en fait tes intérêts et les siens sont pas alignés, c'est un red flag. Alors il y a plusieurs éléments pour ça. Je pense qu'il y a une partie qui est naturelle, une partie, voilà, c'est important quand même que toi tu saches un peu, parce que ben, ce que tu vas, et si par exemple le type de ressources dont tu as besoin et quelle vitesse on va évoluer, parce qu'il y a des choses qui vont dépendre de ton choix. Si tu t'engages par exemple pour avoir une réduction de prix, mais que finalement tu n'as pas besoin de cette capacité, quelque part, ben, c'est pas la faute du fournisseur de service si tu t'es trompé. En revanche, là où c'est important de regarder, c'est pas les coûts cachés, mais notamment quand je parlais tout à l'heure du fait qu'il faut anticiper ton départ pendant longtemps, et je pense que c'est encore le cas chez certains fournisseurs, tu avais des coûts de sortie, des egress fees, c'est que ben tu avais un coût au tera, genre si jamais je veux quitter mon fournisseur et que j'ai, 2500 tera de données à récupérer, je payais pour la récupérer.
C'est quand même un truc qui
ça, c'est un coût fou, que ça. Souvent les clients voyaient pas. Pardon ?
Ça me semble assez fou, ça. Je
trouve ça en fait...
aberrant.
C'était le cas, la majorité de l'industrie encore pendant longtemps, chez des gros fournisseurs. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, que OVH faisait jamais. Parce que là, pour le coup, c'est un red flag à deux niveaux. C'est un, ça veut dire que quelque part, ça écrète, parce qu'en fait, si je me dis, j'ai plus de données, ça veut dire que j'ai eu plus de réussite, donc plus de revenus, ça écrète une partie de cette réussite, parce qu'en fait, si je change, faudra que je paye d'autant plus que j'ai été successful. Donc ça, déjà, je trouve ça un peu ennuyeux. Et puis, deuxièmement, c'est un truc qui encourage à te bloquer avec un fournisseur. C'est-à-dire que le risque après ça, c'est que tu te retrouves bloqué chez ce fournisseur parce qu'en fait, ça te coûte trop cher de quitter. Et ça, je prouve qu'en termes de mindset, c'est pas top. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder ces coûts-là, et notamment les coûts réseau, mais pas que. Et très souvent, c'est combien ça me coûte si je dois m'en aller, en fait. C'est ça une bonne porte d'entrée pour voir si il y a des choses dans la grille tarifaire dont tu n'étais pas conscient qui font que ça te coûtera plus cher que prévu, et surtout qui te font te poser des questions sur est-ce que le gars que j'ai en face de moi qui me fait un grand sourire pour que je signe chez lui, est-ce que vraiment c'est à moi qu'il pense en premier, en fait.
On a évoqué tout à l'heure un peu plus tôt les aspects aussi environnementaux au début de l'épisode. Est-ce qu'il y a des enjeux vraiment, des réflexions autour de l'éthique qui sont vraiment présents dans les réflexions, les stratégies de, par exemple, d'OVH ou du secteur du cloud?
Alors, comme je dis, je suis plus chez OVH depuis quelques semaines, donc je ne pourrais pas dire ce qui réfléchit aujourd'hui. En tout cas, ce que c'est que OVH est parti des fournisseurs qui se posent un certain nombre de questions depuis longtemps sur la partie notamment sur la partie environnementale. C'est quelque chose sur lequel et ce qui est assez génial dans le cas du cloud, c'est que c'est un des cas où il y a un alignement, en fait. C'est économiquement intéressant d'être environnementalement plus
respectueux,
meilleur en quelque sorte, d'avoir, parce que si tu réduis ta consommation d'énergie, tu réduis ton empreinte carbone, tu réduis aussi tes coûts. Il y a tout un tas d'autres éléments. Il y a un truc que fait OVH, par exemple, c'est que ils fabriquent leurs propres serveurs, ce qui permet d'optimiser aussi la taille des serveurs, l'encombrement. Ça réduit tes coûts, mais ça réduit aussi les coûts de construction, donc l'empreinte carbone de ton bâtiment. Ils font aussi de ce qu'on appelle la seconde vie de serveur. C'est qu'en fait, un serveur, lorsqu'il est obsolète, en quelque sorte, ce qu'ils font, c'est qu'ils les prennent, ils les désassemblent, ils refont un autre serveur avec un prix plus faible et des compétences, enfin des performances plus faibles, mais ça permet d'éviter de racheter du matériel. Donc ça, c'est vraiment un point qui, je pense, qui est dans l'ADN d'OVH. C'est pour ça que moi, j'ai adoré le temps que j'ai passé là-bas. C'est qu'il y a cette espèce d'alignement entre ça sera plus intéressant en termes de coûts et ça sera mieux pour l'environnement, qui se fait assez facilement. Et donc, c'est pour ça que cet alignement fait d'autant plus que c'est une prise de conscience qui est assez forte. Je pense que ça, c'est un des éléments importants, je pense, qui est essentiel en termes de la partie éthique. Je pense que le deuxième élément, et on en parlait tout à l'heure, c'est sur la partie souveraineté. Être sûr que lorsqu'un client vient et confie ses données à un fournisseur de service, il est sûr que ses données, il est clair sur ce qui peut arriver à ses données, à quelle loi ça s'applique, quel niveau de risque il prend, et qu'il a la possibilité de choisir d'augmenter le niveau de sécurité en prenant un autre type de service, et qu'il sait que le fournisseur chez qui il va est un fournisseur qui est soumis à telle ou telle législation. Je pense que ça aussi, c'est important en termes d'éthique et de focus. Et puis, troisième point, c'est un peu ce qu'on touchait tout à l'heure. On a toujours un débat sur les fournisseurs de services. Il y a des données ou des choses qui sont sur Internet qui sont potentiellement illicites. Là aussi, c'est assez clair. Un fournisseur de services cloud, il va pas regarder les données de ses clients, donc c'est pas à lui d'aller regarder si ce que les clients font avec les machines illicite ou pas, parce que c'est quelque chose qui est un, pas faisable, et deux, qui est antinomique avec le fait que je peux pas aller regarder tes datas. Ça serait du flicage. À l'inverse, ça veut dire aussi que d'un point de vue éthique, si jamais par exemple il y a du contenu illicite sur un serveur hébergé chez OVH, ils ont les procédures en place pour que très rapidement, si jamais quelqu'un alerte OVH sur ce genre de choses, ça puisse être arrêté. Donc c'est aussi ce genre de question en termes d'éthique, c'est comment tu équilibres entre préserver la liberté et la vie privée des 98% de tes clients qui font rien de mal, tout en permettant à ce que les 2% qui s'en servent pas comme il faut puissent être arrêtés le plus vite possible dans leurs actions. Donc équilibrer les deux, en fait. Donc là, c'est vraiment pour moi les trois grandes questions d'éthique: impact environnemental, souveraineté, et puis respect de la loi et de la vie privée. Je pense que c'est des choses qui, dans l'industrie soit assez, c'est quand même assez reconnu. C'est quand même des choses qui sont assez importantes. Pour le coup, ça faisait partie des choses qui étaient front and center chez OVH en termes de réflexion et en termes de mentalité, parce que ça fait partie de l'ADN de la boîte.
Et concernant les perspectives, alors que ce soit à la fois pour répondre à ce type de problématique ou adresser même d'autres problématiques, on voit émerger donc certaines nouvelles pratiques, par exemple edge computing, donc qui consiste à se rapprocher de la localisation des données pour les calculs, le principe de serverless et le lien avec de nouvelles technologies, big data, IA, explosion de l'IoT. C'est quoi un petit peu selon toi, enfin ta vision ou l'évolution future du cloud computing? C'est quoi les prochaines étapes?
Alors, je pense qu'il y a un élément clair, c'est que l'IA va continuer à, enfin, avoir un impact, et notamment en termes de quantité de données. Ça, c'est clair, et on l'a vu de plus en plus. Et l'idée, c'est que les fournisseurs de services puissent accompagner, et il y en a beaucoup qui ont déjà commencé à réagir sur, notamment sur le GenAI, que tu puisses avoir tes LLM, soit des, donc c'est clairement un des drivers, pour l'utilisation de services et de ressources informatiques et pour la création de données. Donc c'est important. Je pense que l'IoT aussi, on voit depuis le début parce que il faut bien faire quelque chose de ces données, donc ça sera aussi un des facteurs qui va continuer à pousser. Je trouve qu'il y a une vraie question qui va se poser autour de la souveraineté. Et ça, c'est une question pour moi qui se pose plus largement dans les réflexions sur la globalisation. On voit qu'il y a une crispation depuis un ou deux ans qui amène plus sur un modèle où, en fait, là où on était sur une globalisation assez forte, donc il y a une facilitation des flux. Là, des questions plus fortes qui se posent en termes de souveraineté. Et ça s'applique aussi bien aux flux de données qu'aux flux de matériel. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie question en termes de lisibilité. Comment les fournisseurs de services cloud arriveront à rendre transparent pour l'utilisateur et pour les entreprises, où est-ce que leurs données peuvent aller et puissent leur donner cette maîtrise-là. Je pense que l'autre facteur, ça sera le facteur environnemental également. Moi, c'est un des points qui m'intéresse. C'est très présent dans beaucoup de discussions. À partir de quand la majorité des clients qui choisissent un fournisseur de services cloud, ils mettront dans leur priorité 1, l'impact environnemental, la souveraineté ou les deux, en fait. Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont importants pour certains et pour certaines industries. Je pense qu'il y a de la marge pour que ce soit encore plus important que ça ne l'est aujourd'hui parce que je pense qu'il y a encore un travail de prise de conscience. Mais pour moi, ça sera un élément important lorsque ces éléments-là sont différents. Lorsque tu choisiras ton fournisseur de service, non pas juste parce que il te coûte moins cher dans l'année à venir, mais réellement parce qu'il peut t'accompagner 2, 3, 4, 5 ans en prenant en compte à la fois la partie économique, la partie environnementale et la partie aussi souveraineté éthique. Quand on en sera vraiment là, je pense que ça sera intéressant de voir comment le marché a évolué, effectivement.
D'accord. Est-ce que, Paul, tu as encore d'autres questions ou on commence à avoir fait un bon état de l'art de ce sujet-ci?
Bah écoute, je pense qu'il faut qu'on demande à Frédéric, mais moi, il me semble qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait aborder. Est-ce que tu penses, Frédéric?
Je pense aussi. C'est assez, c'est un sujet qui est assez, assez foisonnant. Il se passe beaucoup de choses, qui est aussi très, à la fois très simple et à la fois complexe techniquement. C'est un peu des deux. Et qui est très présent dans nos vies, mais sans qu'on s'en rende compte.
Ouais, complètement.
À la fin de nos épisodes, Frédéric, j'aime bien demander à nos invités s'ils ont des grandes questions philosophiques, sociales, peut-être politiques, qui se posent, sur lesquelles ils n'ont pas forcément de questions, mais qui occupent un peu leur pensée de temps à autre. Est-ce que tu as des questions, toi, comme ça?
Écoute, moi, comme beaucoup de monde en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur l'IA. J'y réfléchis beaucoup, notamment sur, sur le generative AI et sur les questions que ça pose en creux d'un point de vue philosophique. Donc ça, c'est un sujet moi qui me passionne vraiment bien. J'ai pas vu si dans vos podcasts vous avez une partie sur l'IA.
On a Luc Julia qui est passé sur le podcast. Et après, on va faire des épisodes sur la lutte contre les biais dans l'IA.
On a eu la computer vision, on a eu la reconnaissance vocale. On essaie de l'aborder sous différents prismes.
C'est un sujet qui est vraiment intéressant. Alors, moi, j'ai la chance, j'habite à peu près 15 minutes du MILA, qui est le centre de recherche informatique Deep Learning à Montréal. Et effectivement, c'est le genre de questions qui se posent. J'ai eu l'autre jour une présentation de quelqu'un sur comment tu peux manipuler ton réseau de neurones pour réduire le biais. C'est assez génial. Moi, les questions, surtout que ça pose derrière, enfin, c'est économique, sociétal et philosophique. Je pense que c'est pas sous, en fait, en compte, très souvent, on parlait de magie tout à l'heure, et quand je sais plus, quelqu'un de votre famille qui trouvait que le cloud c'était magique, je pense que il y a deux sujets en ce moment, moi, qui me donnent l'impression que j'ai beaucoup savoir que comment techniquement ça marche. Il y a un parfum de magie, c'est l'IA et le quantique. C'est les deux où t'as l'impression que tu touches quelque chose d'assez, c'est un moment passionnant pour faire de la technologie, pour ces raisons-là.
Donc, on te retrouve dans ces sujets-ci dans quelques mois.
Écoute, très probablement.
Voilà. Bon, on laissera nos auditeurs aller voir ton LinkedIn à ce moment-ci et t'envoyer un petit message pour savoir ce que tu fais. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric, pour ton temps. On est hyper content, je pense, de cet épisode. En tout cas, je suis très content parce qu'il y a plein de conseils directement applicables. Donc, c'est très, très cool. Merci beaucoup.
Mais écoute, tant mieux. J'espère que c'était suffisamment pédagogue.
Très intelligible.
Comme c'est un sujet passionnant, mais c'est aussi comme souvent en IT, il y a beaucoup de jargon et beaucoup de choses qu'on a tellement l'habitude d'utiliser qu'on oublie de les définir. Donc, n'hésitez pas. Écoute, c'était un vrai plaisir, en tout cas, d'échanger avec vous et de me replonger dans ce qui a été mon quotidien pendant 6 ans avec beaucoup de passion, avec des gens vraiment géniaux. Donc voilà, c'était très agréable.
Et merci beaucoup à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. 1h40 de podcast, peut-être un peu plus avec le jingle de début. Merci beaucoup. On vous rappelle qu'on sort un épisode tous les mardis et une newsletter tous les dimanches où je décortique les sujets technologiques et économiques à travers le monde avec souvent des petites anecdotes un peu sympas, etc. Merci beaucoup, à très vite.
Au revoir. À très vite, merci.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.